Salut! Avant de commencer cet épisode, plusieurs choses. Comme vous allez l'entendre par la suite, ce n'est pas réellement le premier épisode. C'est le deuxième épisode. Le premier épisode n'est pas écoutable. Il est très mal enregistré de par ma faute, hein, bien sûr. Et du coup, je l'ai laissé celui-là. Celui-là aussi est mal enregistré aussi, mais il s'écoute. Comme vous allez l'entendre, Maxime, c'est la première fois que je rencontre. Donc c'était important de garder quand même cette rencontre qu'on a faite le jour du podcast. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas refaire un épisode. On l'a décidé à deux. Donc voilà, je vous laisse cet épisode qui est un peu compliqué à écouter, mais ça s'écoute. Merci beaucoup et bonne écoute.
J'adore le comique, c'est entendu, mais j'ai horreur de certains genres de plaisanteries.
Mes souliers, mon vélo.
En Arthur, on ne pense que ça, la police, il y a les examens et tout, pour tout le suite, tu vois.
Ça se présente plutôt bien, finalement.
Ça a deux côtés prépondérants et une base onirique. Une te chante,
Et le mec qui mangeait ce sandwich, c'était le blanc.
C'est la viande Barbie.
Je ne suis pas bridé, vous avez les yeux ronds. Pour moi, le monde est peuplé de hiboux.
Le garçon m'encule. Je suis projeté en dehors du lit.
En 3 secondes, j'ai le top 10 des recettes pour te cuisiner ta mère la poule.
Alors pour ce deuxième épisode, j'ai pu parler avec Maxime Sébron. Il m'a accueilli chez lui, je suis parti en fait en week-end à Angers. Et si vous voulez, il y a un comedy club à Angers que je connaissais pas avant. Ils sont 4 à gérer. Donc il y a Antoine, Rémi, Nathan et Maxime. Et il y a aussi Benjamin à la régie. Du coup là j'ai pu parler avec Maxime. Le week-end prochain j'y retourne et je pourrai parler avec Rémi et Nathan. Alors je suis super content. Maxime m'a accueilli comme un roi dès le matin, très tôt le matin, avec un café. C'était vraiment parfait. Vous entendrez sûrement les bruits de tasses. Désolé, ça va peut-être un peu déranger. Mais ça s'écoute très bien. On a parlé de plein de choses, vraiment plein de choses. C'est quelqu'un de vraiment génial. Je le connaissais pas du tout avant, c'était la première fois qu'on se rencontrait. Et ça m'a vraiment fait plaisir de parler avec lui. Voilà, bonne écoute.
T'as Bourville, Coluche, c'est pas très timide. C'est pas Jamel, quoi.
Si.
Forestier.
Ouais.
Je sais pas. Fraissinet.
Du coup, tu veux réécouter ou...
franchement, je les ai pas du tout les...
Alors, le premier, ouais. C'est Louis de Funès.
Ah, mais après, en fait, j'ai pas entendu tout de suite.
C'est pas grave. Okay. Après, du coup, il y a Bourville.
Ouais, Bourville.
Bourville, Coluche, t'as trouvé?
Bah, ça va dans un ordre, en fait. Ouais, c'est chronologique ça.
Après Coluche, c'est Muriel Robin.
Muriel Robin, bah, ouais. Tu vois, j'avais un doute. Ouais.
Après, ouais, je crois que j'ai mis Jamel Debbouze.
Ouais.
Jamel Debbouze, Gad.
Gad, ok, ouais.
Le blond, tu sais, c'est
mieux. Ah, c'est le sketch. Ouais. Le fameux sketch.
Ouais, le fameux.
Le fameux.
Et il y a Florence Foresti que t'as trouvé.
Ouais.
Adrien, celui que j'ai vu juste avant, il avait pas trouvé Florence Foresti.
Ok.
Il y a eu. Blanche ou Bounaïmin, il y a eu les deux, mais il y a eu Bounaïmin. Ouais. Ouais, je me suis dit qu'en fait, général, les gens les trouvaient, mais c'est pas grave.
Et sur scène, il n'y en a pas un milliard, en fait. Pas donc, oui, forcément.
Est-ce que ça va?
Bah écoute, moi ça va super, hein.
Nickel.
Ça va super, et toi, est-ce que ça va?
Nickel. Franchement, c'est le podcast le plus tôt que je vais faire, je pense, et j'espère.
Il
est 8h20. 8h20.
Putain.
Du coup, tu t'es levé à quelle heure, toi?
Je me suis levé à 7h45. Puis tu vois, je me suis préparé un speed. Et puis bah, tu m'as appelé dans la foulée, puis nous voilà.
Bah nickel. Déjà, tu viens d'Angers de base, ou t'étais d'ailleurs avant?
Alors je suis né à Angers.
Ouais.
Je suis né à Angers, mais moi j'ai fait mes études et j'ai grandi en fait à côté d'Angers dans la campagne vers Saumur.
Ouais, je vois.
Si tu vois, voilà. Et puis j'ai fait mes études ensuite sur Angers, mes études supérieures. J'ai fait un an, ensuite je suis parti 2 ans sur Rennes. Pour au final revenir sur Angers après avoir quitté ma fac de cinéma du coup à Rennes. Et donc je suis là depuis, je suis au retour en fait depuis maintenant un peu plus d'un an. Quoi.
Ouais.
Donc depuis que je me suis lancé dans stand-up.
Ouais, donc t'as arrêté les études.
J'ai arrêté les études, si tu veux, j'ai fait une première L1 de licence d'anglais, ça m'a pas plu du tout. Après j'ai fait 2 premières années de licence de cinéma et puis je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus c'était pas la théorie parce que c'était une fac. C'était pas une école et c'était vraiment la pratique, faire des projets avec mes potes à côté, être devant la caméra, jouer en fait vraiment. Et en parallèle, pendant ma deuxième première année, du coup, je suis revenu à un moment sur Angers et du coup, j'ai avec ma sœur, ma sœur m'a proposé d'aller voir un comedy club. Je connaissais pas du tout le concept en fait. Enfin, je savais pas qu'il pouvait y avoir des comedy clubs en fait autres que Paris. Ouais. Moi, j'étais vraiment un peu fermé là-dessus, si tu veux. Genre, pour moi, c'était Jamel et basta quoi. Mm. Et du coup, en fait, j'ai découvert tout ça en fait très tôt, enfin très tard. Et puis après, de là, en fait, je me suis dit, bah en fait, c'est ça que je veux faire quoi. Je veux revenir sur Angers, puis je veux faire ça avec les mecs.
D'accord. Voilà, mais vas-y, finis.
Non, c'est parce qu'en fait, du coup, j'ai eu l'opportunité de me lancer parce que je suis tombé sur mes potes et puis j'ai vu que c'était qu'ils avaient besoin en fait de gens pour venir jouer avec eux pour que le truc puisse grandir en fait. Et je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas. J'ai fait du théâtre, du cinéma, bah let's go pour l'humour quoi.
T'avais fait du théâtre avant ?
Ouais, j'ai fait du théâtre.
Ok, t'avais quel âge ?
J'étais au lycée, hein. Je faisais partie d'un atelier, tu vois, on avait un spectacle à chaque fin d'année, donc j'avais de mes 15 ans à mes 18 ans.
Ok, et tu trouves que ça t'a aidé pour le stand-up ou pas d'avoir fait du théâtre avant ?
Ouais, la gestion du stress beaucoup, parce que c'est souvent la chose la plus difficile qu'on a du mal à faire en fait quand on commence la scène, c'est gérer tous ces regards, gérer cette pression qu'il peut y avoir. Et essayer de faire abstraction de tout ça. Moi, j'avais déjà joué devant des publics de 150 personnes, tu vois, donc c'était des amphithéâtres avec des parents, des élèves,
mais
ça reste un public, donc c'est assez impressionnant. Et donc là, quand j'ai commencé, c'était plutôt des salles de 50 personnes. Et ouais, la gestion du stress, apprendre son texte, réussir à le mémoriser, réussir à être à l'aise avec son texte, en fait, vraiment le jouer. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a une grosse différence entre l'humour et le théâtre. C'est vraiment, vraiment pas du tout la même chose entre quand t'apprends le texte de quelqu'un d'autre, que tu l'interprètes, et quand t'apprends ton propre texte que toi-même tu as écrit, il n'y a pas du tout la même différence.
Ouais.
Enfin, il n'y a pas du tout la même, même façon de procéder en fait.
Et je trouve que c'est quand même plus simple d'apprendre son texte à soi. Genre, par exemple, quand tu crées un truc, tu vois, c'est un truc en général des fois que t'as vécu ou quoi, et genre, bah. Si tu oublies ton texte, tu te souviens quand même de ce qui s'est passé, donc tu peux retrouver ton truc.
Bah en fait oui, c'est ça, ce qui est cool en fait avec le stand-up du coup, c'est que c'est toi qui écris tes propres textes, c'est tes mots, c'est ta vie, c'est... Voilà, donc tout ça en fait, tu le connais déjà plus ou moins, et c'est beaucoup plus simple, oui c'est sûr, c'est con à dire, hein, mais tu vas pas apprendre ta vie quoi.
C'est vrai.
Tu révises pas ta vie, tu vois, c'est quelque chose, bon après ça dépend comment t'écris, ça dépend ce que t'écris, il y en a qui partent totalement sur des trucs inventés de toutes pièces, tu vois, donc il y en a qui s'inspirent à 50% de leur vie, comme il y en a qui racontent 100% de leur vie, parce qu'ils ont des vies de fou, mais non, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple quand c'est tes mots en fait, tout simplement.
Et toi tu te bases où, genre 100% de ta vie, 50% ou tu racontes des...
Alors, c'est vrai que je raconte pas mal d'anecdotes sur scène, j'aime bien faire du storytelling, tu vois, et en général, les gens me demandent si c'est vraiment ce qui s'est passé, et il y a pas mal d'histoires que j'ai écrites et que j'ai jouées sur scène où c'est pratiquement à 80% ce qui s'est passé.
Oui, après, forcément, c'est un peu romancé,
voilà,
pour rendre ça drôle, évidemment.
C'est un peu romancé, forcément, et moi, j'aime vraiment, je trouve que quand c'est quelque chose que t'as vécu, c'est beaucoup plus authentique, on sent beaucoup plus sur scène que... t'es à l'aise et puis t'es vrai en fait.
Ouais.
Donc moi j'insiste vraiment sur le fait que j'ai envie de parler de choses que j'ai vécues plutôt que d'inventer des choses de toutes pièces, même si de temps en temps, tu vois, je pars d'un point de départ et après je m'amuse à aller à droite ou à gauche, mais tout en ayant une base de départ où je me dis bon bah là je me sens à l'aise de parler de ça.
Quoi. Ouais.
Je me verrais pas écrire ou parler de choses que j'ai pas vécues, parce que enfin il y a un truc en fait qui se passe sur scène, c'est ça se sent et les gens le sentent, et si tu veux réussir à les captiver jusqu'au bout, il faut vraiment que t'aies ce truc en fait qui fait que les gens se disent ah ouais mais ce mec en fait il a une vie de fou, et pas ah ouais mais c'est bizarre un peu ce qu'il dit, enfin il y a des trucs qui collent pas, tu vois, enfin faut pas non plus paraître pour un personnage de fiction, faut quand même rester dans sa peau d'humoriste et d'humain, tu vois, et c'est pour ça que je trouve que c'est important d'écrire des choses qui se sont vraiment vraiment passées quoi, inspirées de ta vie.
Ouais, de toute façon il y a rien de plus intéressant pour soi que soi-même, genre quand on parle de soi on est super intéressé, donc forcément c'est plus simple de captiver. Du coup tu les as rencontrés après les gars de, du coup il y a Rémi,
voilà.
Nathan, Antoine et toi. Du coup, j'ai même pas dit ton Maxime.
Alors, il y a aussi Benjamin.
Benjamin,
on l'oublie de le dire, il fait pas de la scène, mais il est en régie.
D'accord,
en fait,
ok.
Du coup, le groupe de base, c'est Rémi, Nathan, Ben et moi, du coup. Et Antoine, qui est un humoriste de Nantes, en fait, qui a sa famille sur Angers, qui a un peu toujours vivoté à droite à gauche, qui s'est rajouté dans le groupe, en fait. Et nous, on l'a accepté volontiers, vu qu'il a, étant donné qu'il avait beaucoup d'expérience, qu'il connaissait énormément de monde, et puis c'est un peu notre tonton aujourd'hui, ouais. Tu vois, c'est vraiment le tonton Antoine. Et donc du coup, aujourd'hui, on peut dire qu'on est 5, même si Antoine va se détacher bientôt, il a ses propres projets. Donc nous, on va rester sur une base de tous les 4. Et c'était quoi ta question?
Du coup, tu les as rencontrés, t'as rencontré Rémi et Nathan, ils avaient commencé le truc.
Alors non, pour tout expliquer, Rémi a monté ça tout seul en fait, le Angers Comedy Club. À la base, c'était vraiment un tout petit truc quoi, c'était dans un bar quoi, et il faisait ça en fait, il faisait monter sur scène des humoristes qui prenaient des cours en fait de stand-up, parce qu'il y avait des cours en parallèle dans, en fait, on y jouait dans la structure qui s'appelle, enfin dans une salle qui s'appelle Les Petites Folies. Et en fait, c'est toute une structure où il y a des cours de comédie musicale, des cours de danse, des cours de stand-up. Donc au départ, ils faisaient monter ces gens-là. Et après, ça a pris un peu plus d'ampleur, il y a des gens extérieurs qui sont arrivés, tout ça. Et donc moi, je suis arrivé quand le Comedy Club avait, on va dire, 6 mois, 8 mois, un truc comme ça. Et donc j'ai assisté à une soirée, et après, à la fin de la soirée, en fait, Rémi était super accessible, enfin, ils étaient tous super accessibles, donc on a pas mal pu discuter. Et en fait, pour la petite histoire, il y avait Antoine Santenac aussi, humoriste de Nantes, qui jouait son spectacle. Et donc j'ai discuté un peu avec ces deux gars-là. Et à un moment, je m'éclipse pour aller aux toilettes. Il y a ma sœur qui était avec moi. Je reviens. Et en fait, ma sœur avait parlé avec eux et leur avait dit que comme quoi j'aimerais bien en fait me lancer. Mais moi, je n'osais pas trop le dire, tu vois. Et ils m'ont dit, les gars m'ont dit, bon, alors comme ça, tu veux te lancer? Bah écoute, il n'y a pas de souci, t'es disponible fin du mois de janvier? On était au mois de novembre. Je suis, ouais, pas de souci. Ils m'ont dit, bon, bah dans 2 mois. Et à partir de là, bah, j'avais une deadline et bah, je me suis dit, bah, il n'y a pas le choix là, faut que je me mette à écrire en fait. Parce que moi, j'avais jamais écrit de ma vie. Donc du coup, je me suis lancé là-dedans. Et ce qui est très marrant, c'est que c'était exactement la même histoire pour Nathan. Parce que Nathan était venu, mais lui, la soirée d'avant, en fait.
D'accord.
Parce que Antoine jouait sur 2 jours. Okay. Donc, il était venu la soirée d'avant, et même cheminement, quoi, il s'est lancé aussi comme ça, gros coup de cœur avec Rémi et tout. Et puis, bah, Ben était avec Nathan, et Ben, lui, a jamais trop voulu monter sur scène. C'est un peu un mec de l'ombre, tu vois. Il aime bien donner son ressenti des soirées, choses comme ça. Et lui, du coup, il gère plus tout ce qui va être régie, tout ce qui va être gestion de la soirée, organisation, tout ça, comme un peu. Enfin, on gère un petit peu tout ça, mais lui, c'est vraiment son truc. Donc voilà.
Et toi, tu es plus basé, genre, il y a un truc que tu gères plus particulièrement que les autres ou pas du tout? Ou c'est
en
tous
fait,
pareil?
Si tu veux, au début, on s'est pris la tête à vouloir se définir des rôles, dire, bon, bah, toi, dans l'asso, tu feras ça, tu feras ça, toi, tu feras ça.
C'est une asso?
Ouais, du coup, c'est une asso. D'accord. On a créé une asso au final. Hein. C'est pas que un comedy club, c'est aussi une asso. Ça nous permettait d'avoir un statut et puis que ce soit plus simple à expliquer aux gens, quoi. Te dire on est un collectif d'humoristes, ou alors on est un club ou un groupe de potes, on est une asso. Et donc non, moi au départ j'étais juste là pour faire des blagues. Et puis c'est vrai qu'après j'ai vu que le truc prenait pas mal d'ampleur, donc je me suis dit bon bah peut-être falloir s'y mettre quoi. Donc non, après on touche un peu à tout, tu vois, on fait tous plus ou moins des stories, de la com, on a tous plus ou moins aussi des gens qu'on contacte pour ramener, pour venir faire jouer chez nous. On fait tous plus ou moins, en fait on touche tous à tout, si tu veux, il n'y a pas de rôle défini, on s'organise ensemble et on se concerte souvent, donc c'est vraiment le groupe qui avance quoi, c'est pas chacun de son côté ou chacun fait le truc qui lui est attribué quoi, c'est un groupe.
Mais c'est bien parce que le truc il a grandi de fou, ce que j'ai cru voir là, vous êtes dans une salle, un sort de théâtre, je sais pas exactement comment appeler ça, mais...
Si, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est un théâtre, et si tu veux, on a organisé ça de façon à ce qu'il y ait une plus petite scène, et qu'on ait en fait un angle à 180 degrés avec les gens, ouais. Tu vois, donc c'est super cool, et en fait, bah, vraiment, ça a pété au moment où on est arrivé, si tu veux, Nathan, Ben et moi, et au mois de janvier, et à partir de janvier dernier, si tu veux, du coup, Rémi avait réussi à ramener pas mal d'humoristes de Paris, tout ça, les gens étaient agréablement surpris, puis tu vois, le bouche à oreille, sur Angers, vu qu'il n'y a pas grand chose, quand il se passe un truc qui fonctionne, en général, bah, ça se sait vite.
Mmh.
Et là, pour le coup, ça a pété à partir de janvier dernier, et puis on a très vite fait des complets, en fait, tout le temps. On en remplissait donc la salle de 50 personnes, on arrivait vite à 70-80 des fois, tu vois. Et après, au mois de juin, on a réussi à. Donc, on a eu l'opportunité de jouer dans la plus grande scène qui avait ouvert juste avant, quoi. Et donc là, on remplissait 110-120 personnes, quoi. Et toutes les semaines. Donc on était un peu choqués, tu vois, de se dire, bah, putain, et puis les réservations, si tu veux, ça allait très vite. Hein. Ça, des fois, en 3-4 jours, on avait 80% des billets qui partaient. Quoi.
Ah ouais,
par
mais...
réservation gratuite.
Mmh, ouais, mais oui, non, mais ça part quand même vite.
Ah
moi,
ouais,
mais...
c'était impressionnant. Et puis, si tu veux, on était choqués de voir aussi ce public qui se renouvelait constamment. Alors, à chaque fois, on aimait bien, quand on faisait le MC, tu vois, demander bah, pour qui c'était la première fois, qui était déjà venu. Et en général, il y a 3/4 des gens qui applaudissent, quoi. Il y a 3/4 des gens qui venaient pour la première fois. Et c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait parler de nous, mais pas assez, pas au point de toucher tout Angers, que les gens soient au courant. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le stand-up, en fait. On s'en est rendu compte. Il y a beaucoup de gens qui connaissent « Oui, j'ai déjà vu Gad Elmaleh à la télé », mais ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ils sont agréablement surpris. Des fois, ils ne s'attendent à rien. Ils ressortent super contents. Et puis, « Ah, oh, bah, putain, il faut que j'en parle à mon pote. Bah, demain, au taf, je vais en parler à machin. » Et ça va très vite, en fait. Ça va très, très vite. Quand les gens sont contents, ça va très, très vite.
Ouais, mais... Alors déjà, Angers, moi, du coup, tu me dis que ça a en tout un an et demi, ouais.
Ouais, ouais.
Mais moi, j'ai habité à Angers pendant un mois et demi.
Mois et demi. Ah,
ouais. Je suis venu, en fait, je suis parti de Paris, je me suis dit, je vais aller vivre à Angers parce que j'ai des potes qui étaient sur le loin. À Belleveille, j'habitais.
Ok, ouais.
Je suis venu, je suis reparti très vite parce que j'ai eu des... Ma famille me manquait beaucoup, mais j'adore cette ville, vraiment, ouais. J'adore cette ville.
Bah, et,
ah, mais bon, ouais. Moi, franchement, si je pouvais, si ma famille était dans le coin... Je pense que je serais super heureux. Mais le truc, c'est que moi, j'avais jamais vu de comedy club ou quoi. Et je faisais pas stand-up à l'époque, mais l'humour m'intéressait. Pas pour en faire, mais juste pour aller voir. Et j'étais très déçu qu'il n'y en avait pas. Mais en vrai, à Nantes, il y en a. Mais c'est vrai qu'en province, en général, il n'y en a que très peu.
Pas beaucoup, hein. C'est beaucoup dans les grandes villes, on se rend compte.
Ouais, parce que même moi, tu vois, qui suis à côté de Paris, à Fontainebleau, ouais. J'ai monté mon truc. Et les gens, quand j'aurais dit stand-up, ah oui, ouais, c'est ça, ils me parlent de gens qui font des sketchs ou quoi. Je fais non, c'est du stand-up, voilà. Et j'ai ramené ça. Et comme toi, en fait, on m'a dit, tu verras, Vincent, les 3 premières fois, ça peut se remplir. Après, ça va être compliqué, tu vois. On m'a dit, tu vas voir, ça va être plus compliqué à remplir. Et j'étais là. Voilà. Et puis là, je remplissais. Et je fais, bah non, en fait, c'est pas compliqué. C'est qu'en fait, les gens, contrairement à toi, par contre, c'est des gens qui revenaient régulièrement.
Okay.
Donc je me suis vite rendu compte, en fait.
Mais on a cette part aussi de gens qui reviennent, mais on s'est rendu compte que. Bah, ça dépend, toi, si t'es dans une grande ville ou non, tu vois.
Ouais, moi non, c'est
Angers,
pas
vrai. Angers, on est, je crois, sans dire de conneries, 180 000 personnes, ça bouge beaucoup. Et en fait, on n'avait pas du tout de mal à se renouveler, mais on aurait pu avoir justement ce bloc d'habitué qui revenait souvent. Et en fait, si tu veux, vu qu'on faisait une soirée par semaine, même des fois 2-3 soirées par semaine, on avait quand même ce bloc d'habitué qui revenait, mais pas d'une semaine à l'autre, tu vois. Des fois, il revenait 2 fois dans le mois, 3 fois dans le mois, ça dépendait. Mais c'est vrai que quand t'es dans une plus petite ville, le problème, c'est que bah, ça se renouvelle pas trop. Et même si t'as pas de. Nous, le problème auquel on a été confronté, c'est que du coup, nous, on était tout le temps sur scène, quoi. Donc, tout le temps à faire le même sketch. Au bout d'un moment, on s'est dit, bah, les gens qui reviennent, ils vont se faire chier, quoi. Ils vont connaître le sketch par cœur. S'il évolue pas, s'il y a pas d'autres trucs, tu vois, bon, bah, voilà, ça va peut-être être réverbatif pour eux. Et c'est là que tu te motives, en fait, à écrire de fou. À écrire de fou, à tester de fou. Et c'est trop bien. Plutôt que d'aller à Paris, de dire, bon, bah, je vais écrire un 10 minutes qui passe, et puis je vais essayer d'aller jouer à droite à gauche partout, quoi. Là, au moins, on avait notre scène et on avait en fait l'opportunité de jouer plein de trucs, d'écrire plein de trucs, de faire plein de trucs et sans pression, quoi, surtout.
D'accord.
Tester et faire tout ce qu'on voulait, quoi.
Et vous testez des fois la première fois sur cette scène-là?
Alors, pas sur la grande.
Non, pas sur la grande, ouais.
Sur la petite, ouais.
Vous en avez plusieurs?
Ouais, bah du coup, on a, si tu veux, les deux scènes sont juste en face l'une de l'autre.
Ouais.
T'as juste à traverser la rue, c'est ça qui est ouf. Et donc, non, en fait, si tu veux, on s'était mis quand même, on s'était dit, bon, on va pas totalement tester sur la grande, tu vois, on va tester des trucs, mais quand on a, par exemple, je sais pas, un 5 minutes entier à tester, tu vois, c'était beaucoup ça.
Ouais, ouais,
nous, moi, je sais que personnellement, je procède pas comme tout le monde, tu sais, je vais pas faire genre un peu de sûr, un peu de nouveau, un peu de sûr. Je suis très dans le. Sur nouveau, tu vois.
Ouais, voilà. Alors je suis un peu comme toi.
Ouais.
Mais il y a pas mal de gens.
Ouais. T'as joué les mêmes trucs et je me dis putain, non, mais j'ai envie de parler de plein de choses aux gens, tu vois. J'ai envie de tester plein de choses. Et du coup, non, on testait beaucoup sur la petite. Et après, on avait une autre scène annexe, en fait, si tu veux. On avait ouvert un autre petit comedy club qui s'appelle le Bar de Rire. Donc là, c'est dans un bar où t'as une pauvre petite scène où on est 25-30 personnes max, tu vois. Et là, c'est très très bien pour tester. Au moins, t'as moins de monde et c'est moins impressionnant parce que si tu vas tester devant 110 personnes, je l'ai fait, hein, mais bon courage. Si ça vite, ça fait mal.
Ah ouais?
C'est assez violent.
Et puis en général, les grandes scènes, t'as envie que les gens reviennent, du coup, t'évites de
tester. Exactement. On a envie de faire des soirées au top à fond à chaque fois. Bon, on réussit la majorité du temps, mais il y a des fois quand on se pète la gueule, on se dit putain, ouais, c'est vrai que la grande scène, quand ça passe pas, ça fait mal, quoi, c'est dur. Et c'est pour ça qu'on on voulait absolument avoir une petite scène pour tester.
Ouais, une sorte d'open mic en fait. Hein.
Voilà, c'est ça,
l'open mic. C'est grave bien, tu vois, j'étais pas au courant qu'il y avait
un open mic. Mais nous, on se considère un peu comme une scène ouverte en fait, si tu veux, parce qu'à chaque fois, on passe une annonce, on demande aux gens s'ils veulent se lancer, s'il y a des gens, surtout des filles en fait, parce qu'on manque beaucoup de filles sur Angers. On en a eu quelques-unes qui sont passées, il y en a eu quelques-unes aussi qui sont descendues de Paris. Et on se rend compte qu'en fait, il y a très très peu de filles qui veulent se lancer. Et donc nous, on est très friands en fait des filles qui voudraient se lancer, qui nous demandent des conseils, qui ont besoin de nous pour écrire, choses comme ça. Et même les mecs aussi, et on reçoit pas mal de messages. Et nous, du coup, on procède de façon à ce qu'on leur demande, écrivez d'abord 5 minutes.
Ouais.
Bon, comme tout le monde, tu vois, écrivez d'abord 5 minutes, envoyez-le nous, comme ça, nous, on voit ce que c'est. Mmh. On peut le retravailler avec vous s'il y a besoin, enfin si vous voulez tout ça machin, parce qu'on n'a pas envie, en fait le but c'est pas de dire aux gens, bah tu veux faire du stand-up, vas-y monte sur scène, et puis qu'ils se pètent la gueule et puis qu'ils soient dégoûtés. Mmh. Le but c'est qu'ils essayent quand même après de s'améliorer, qu'ils aient envie, qu'ils connaissent un peu ce kiff de monter sur scène, tu vois. Et chose que moi je sais que j'ai pas eu forcément quand je suis monté pour la première fois, tu vois, c'était un peu lourd la rafale que j'ai pris.
Parce que t'as bidé?
Hein?
T'as bidé?
J'ai bidé de fou parce que j'avais pas ce côté écriture stand-up, tu vois, moi j'avais ce côté écriture comme on a tous au début, genre t'écris comme tu raconterais des blagues à tes potes, quoi.
D'accord.
Et après j'ai très vite compris, j'ai très vite capté le truc, je me suis dit ouais, là il y a un truc qui va pas en fait, je sais pourquoi ça a pas marché. En fait déjà dès le premier passage je savais ce qui avait pas marché, je savais pourquoi ça marchait pas. Et parce que juste je connaissais pas assez le stand-up en fait, je connaissais pas tous les codes de l'humour. Mais ça c'est quelque chose qu'on apprend tous au final plus ou moins en autodidacte. Et moi je suis très dans le côté aider en fait ceux qui se lancent pour justement qui connaissent pas un peu cette galère que nous on a pu connaître, tu vois. Et donc nous on procède du coup de cette façon là, après on les fait monter sur la petite scène, ils testent leur truc, s'ils kiffent on leur dit bah tu peux revenir la semaine prochaine et ainsi de suite, et une fois qu'ils sont prêts, comme ça.
Ah non, mais c'est bien parce que ça fait grandir le truc, ça fait ramener du coup du monde, ça crée en fait des stand-uppers. Hein,
c'est ça, et nous c'est ça ce qu'on veut créer, parce que tu vois, on va sur Nantes, il y a pas mal d'humoristes, ils sont maintenant une vingtaine, il y en a beaucoup qui sont pas sur Paris, mais c'est une bonne ville formatrice Nantes, tu vois. Et nous on a envie de devenir un peu un espèce de pôle formateur aussi sur Angers, ça pourrait être cool de créer notre propre équipe en juin, tu vois. Pas être obligé d'être dépendant à chaque fois des autres humoristes et devoir faire des soirées à ramener du coup sur cet humoriste 6 de l'extérieur, tu vois. Essayer de faire un peu de l'humour angevin, propre à Angers, et puis tout en ramenant nos potes et d'autres gens extérieurs, quoi.
Ah non, mais c'est vraiment grave. En plus, vous avez eu quand même des gens bien qui sont venus. Il y avait Franjo.
Franjo, Nino. Ouais, on a fait une grosse soirée. On était très contents de ça. Un gala, du coup. On a fait un espèce de gala. Donc, il y avait, comme tu disais, Franjo, Nino Arial et l'Observateur. Et puis après, on avait nos premières parties. Antoine Santenac aussi, excuse-moi. Et en première partie, il y avait du coup Nathan et moi. C'était une super soirée, quoi. C'était super. Et tu sens que les gens, en fait, tu sens que les gens, quand ils ont passé une très très bonne soirée, ils le font savoir, quoi. Ils le font savoir même avant de sortir de scène, quoi. Ils le font savoir dans la salle, tu le sens, quoi. Et il y avait une telle énergie. Alors, en même temps, ces mecs-là, ils ont cartonné.
Oui, ben, j'ai eu Franjo une fois et...
C'est des mecs, ça paraît évident, si tu les invites, tu sais très bien que s'ils vont retourner la salle, quoi. Donc, ça te dérange si...
Non, vas-y.
Et donc on était super contents, les gars aussi étaient super contents, puis ça a changé un petit peu de leur plan habituel, tu vois, de venir jouer en province, enfin c'était que du bonus pour tout le monde. Et nous ça nous a fait super plaisir de les avoir. Anecdote rigolote, c'est que on a appris en fait en début de soirée, quand ils sont arrivés, que leur hôtel avait brûlé.
Mais non.
Si. Ils sont arrivés à... Je crois ils sont arrivés à 20h et à 19h en... Non, sinon ils sont arrivés à 19h, à 20h on a appris que leur hôtel avait brûlé. Donc à la fin de la soirée, on a eu une énorme galère pour le retrouver un hôtel à 23h minuit, tu vois, enfin, bon, c'est les aléas de...
Bah oui, mais ça, c'est un putain d'aléa quand même, hein.
ça la fout mal, hein.
Bah tu m'étonnes.
Quand tu reçois des mecs comme ça, tu te dis, putain, la soirée s'est super bien passée, nickel. Bon bah les gars, à plus, hein, bon courage. Bah non, il n'y a pas d'hôtel en fait, ça a un peu cramé. Et bon bah grosse galère, mais c'est ça qui est marrant,
parce
que lieu là, c'est qu'il t'arrive tout le temps des trucs de fou.
Tu peux être sûr que la prochaine fois ils vont venir, ils vont en faire des blagues.
Ah bah certain. Bien sûr, totalement. Puis, non mais puis voilà, ça leur fait une bonne blague à raconter, tu vois.
Bah ouais, c'est sûr.
Ils repartent contents avec une bonne soirée et puis une blague à raconter, donc c'est nickel.
Ah non mais... Putain, l'hôtel a brûlé.
C'est vraiment un sketch, franchement.
Et vous avez, genre, c'est vous qui avez fait venir et tout, genre, vous avez pris l'hôtel et tout pour eux et tout.
Ouais, on a tout géré, si tu veux, on voulait vraiment tout gérer tout seul. Et puis au final, on s'est rendu compte que même des mecs comme ça, c'est Bah, c'est pas facile de les faire venir, il faudrait se faire les convaincre et tout ça. Mais, mais en fait, puis après, ça se gère comme n'importe quel humoriste qu'on fait venir.
Ouais.
C'est pas parce que c'est des gars qui passent à la télé, c'est pas parce que c'est des gars qui sont ultra connus que tout de suite il faut stresser. Et
ouais, bah c'est ce que j'ai.
Ça s'arrête des humoristes avant toi en fait. C'est des mecs comme toi et moi et en fait, faut pas se prendre la tête sur tout ça.
Ouais, bah c'est ce que j'ai vite compris. Au départ, je ne vous ai pas demandé et tout aux gens un peu connus. Je me suis dit, on va prendre que des petites personnes, tu vois, qui sont.
Puis très accessibles, ouais. Franchement, ouais. Super accessibles. Moi, j'ai Franjo, surtout avec qui j'ai parlé, très très accessible, très cool. Et puis, tu vois, ils n'étaient pas à me donner des petits conseils, des petits trucs. Mmh. Et c'était marrant, mais ces mecs-là, c'est là où tu te dis, les mecs-là, ils explosent tout sur scène, ils sont trop forts. Mais ces mecs-là, ils stressent aussi, en fait. Même eux, le stress, ça les touche. Mmh. Et moi, j'ai vu Franjo dehors, en fait, si tu veux, répéter tout seul avec son texte, dans un coin de bâtiment, comme ça, tu vois, un peu recroquevillé. Et je suis allé le voir, et je voulais pas trop le gêner, tu vois. Et puis, je sentais qu'il y avait une pression, quand même. Même si, parce qu'il était pas chez lui, parce qu'il connaissait pas trop, tu vois. Et puis, tout simplement parce que, il est humoriste comme tout le monde, et qu'il a besoin de répéter, et puis qu'il a cette pression d'avant match, quoi, en fait. Donc, c'était très marrant de voir ça.
Ouais, une fois, il était très cool avec moi quand il est venu.
Genre, tu l'avais rencontré
aussi. Ouais, il est venu à mon comedy club, tu vois, à Fontainebleau.
Ok, super.
Et j'avais eu un abandon en dernière minute. Vraiment, à une heure, le gars, il n'était pas venu et tout. Je ne vais pas dire son nom, mais. Non, en vrai, il est super gentil, mais juste, ouais. Ce coup, voilà, il a pas. Bref. Je lui dis de venir et tout, et je lui dis, par contre, là, à la base, je paye 12 minutes par personne à peu près.
Ouais.
Je prends 5-6 humoristes. Et là je lui dis ouais tu pourras faire un peu plus longtemps, il me dit t'inquiète c'est 3 heures de matos et tout, et au final je crois qu'il a fait 20-21 minutes.
Ah vache ouais.
Et ouais mais il a défoncé la salle, franchement. Déjà je l'ai vu arriver, il a fait sa première blague, je vois que là tout le monde rigole, je fais c'est bon, je peux sortir, je peux aller parler aux autres.
Et ça c'est super, ça je trouve c'est super quand tu ramènes des humoristes, tu leur dis bon pour toi on a prévu plus large quoi, vu que tu viens de loin, on a envie que tu kiffes aussi le moment, et on leur dit bon bah vas-y si tu veux faire 5 minutes de plus, éclate-toi,
voilà,
et en fait quand tu vois les mecs sur scène, tu vois que c'est dur pour eux de décrocher, parce qu'ils sentent, puis Angers c'est vraiment un public super bienveillant, tu te sens vraiment à l'aise dès les premières minutes quoi, dès le premier rire, tu sens que le public il est là, il est pas là pour te foutre dans la merde, il est là vraiment pour t'aider quoi.
Ah, c'est bienveillant.
Et, une bienveillance de fou que tout le monde nous a, tous les mecs de Paris nous ont dit c'est incroyable comment les gens sont cool quoi. Dès que t'as un trou, dès que t'as un truc, machin, applause direct, tu vois, c'est même pas besoin d'avancer, les gens c'est automatique, ils se mettent en mode automatique, et c'est super. Et tu vois, et ce qui est cool, c'est que quand tu vois des mecs de l'extérieur qui prennent énormément de plaisir et qui ont pas, tu sens qu'ils ont pas envie de lâcher la scène.
Ouais.
Et ça, c'est super cool. Donc nous, c'est pareil, tu vois, comme toi, on leur dit clairement, si tu fais 5-10 minutes de plus, vas-y, éclate-toi, juste éclate-toi.
Bah, pareil, moi, il m'avait regardé, il m'a dit, je peux continuer, fais-toi plaisir. T'es le dernier, fais-toi plaisir.
Voilà.
Je vais pas t'arrêter maintenant. Ouais. Et puis, tu sais, en plus, si tu lui dis d'arrêter, alors qu'il vient de demander, déjà, il y a le public qui va te regarder, attends, il fait rire tout le monde, on va pas l'arrêter maintenant, tu vois. T'as pas envie de casser le truc.
Juste à un moment, faut qu'il sorte de scène quand même, parce que faut faire la soirée. Mais ouais, franchement, fais ton temps, gère-toi, t'inquiète.
Ah ouais, non, mais c'est génial. J'ai quand même posé des questions sur toi.
Dis-moi.
Parce que, alors, t'es le premier, du coup, que je prends des quatre, parce que Antoine, je vais pas l'avoir tout de suite. Ouais. Il m'a dit qu'il repasserait en juillet, tout ça.
En fait, Antoine, il part au mois de juin, au mois de juillet, mais ouais, en fait, si tu veux, là, Antoine, il a un projet, il t'en parlera mieux. Mieux que moi, mais c'est qu'il a, il va partir en camion en fait.
D'accord.
Il a aménagé un camion, il a tout fait tout seul, et là il veut partir carrément, tu vois, faire un petit peu se balader en mode route, tu vois, faire des comedy clubs à droite à gauche. Et est-ce qu'il y a un autre humoriste, un pote à lui du coup qu'on connaît aussi, qui est Kevin Robin. Et la petite histoire, c'est que Antoine a demandé à Kevin qu'est-ce qu'il avait pensé de cette aventure-là, et Kevin m'a dit fais-le. Et après, tu verras quoi. Donc, il a envie de se lancer comme ça. Donc, c'est pour ça que des fois, il sera de retour un petit peu sur Angers, faire quelques scènes ici, et après, pas mal bouger.
Ouais, bah après, si je peux le capter, s'il est sur Paname un jour ou
quoi. Ouais, totalement. Ça serait cool. Antoine,
parce que du coup, c'est vraiment un projet, j'aimerais trop parler avec lui.
Ouais. Non, je pense que ça pourrait être super intéressant d'avoir son ressenti là-dessus.
Tu comptes rester dans le coin toute ta vie, ou tu comptes monter sur Paris pour la fame, j'ai envie de dire, tu vois.
Alors, moi, je pars du principe que si tu fais de l'humour pour la fame, arrête. Ça sert à rien de le faire pour la fame, faut vraiment faire ça pour l'amour de la scène en fait. Et c'est vrai que ce soit à notre niveau comme au plus haut niveau, il y a un truc qui se passe quand t'es sur scène, t'as pas envie de t'arrêter en fait, ça devient une drogue très rapidement, hein. Pour n'importe qui ça devient une drogue, et ça c'est un truc universel, j'ai l'impression. Et donc moi j'aurais envie de faire ça le plus longtemps possible. Franchement, si je peux le faire le plus longtemps possible, je le ferai le plus longtemps possible. Après, il y a quand même ce côté où t'as un frigo à remplir, t'as des factures à payer. Donc, il faut assurer quand même derrière. Donc là, c'est pour ça que moi, en parallèle, tu vois, je me suis lancé là-dedans avec quand même une sécurité financière. Donc, c'est-à-dire que je fais de la scène et à côté, je suis surveillant dans un lycée.
D'accord.
Depuis septembre dernier. Avant ça, je faisais des petits boulots droite à gauche, serveur, tu vois, des conneries.
Ouais.
Et donc moi, là, j'ai comme projet de rester 3-4 ans, en fait, à faire ce job. Et en parallèle, gérer le comedy club avec les gars, monter sur scène. Et après, Paris, je pense que c'est pas une fin en soi. Je pense qu'il faut pas se fixer comme objectif d'aller à Paris. Paris, c'est pas ce qui va changer ta vie, ça peut, hein, ça peut. Mais je pense qu'il faut d'abord se former, toi. Il faut d'abord être prêt au niveau de ta personne, au niveau de ton texte. Et après, si t'es vraiment chaud, si tu sens que vraiment t'as un 10 minutes, va à Paris, ouais, pas de soucis. Mais moi, si tu veux, j'ai envie d'aller à Paris et j'ai envie de tout niquer. Comme tout le monde, en fait.
Non, ouais, ouais.
Nous, les provinciaux, on a tous envie d'aller à Paris et en fait que les gens se retournent sur notre nom, tu vois. Et d'arriver, moi ce que j'ai envie de faire, c'est ça, c'est d'arriver et que les mecs se disent, mais c'est qui ce gars en fait? Il sort d'où?
Ouais, une sorte de la fan du stand-up, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai envie de faire ça, j'ai pas envie d'arriver en me disant, les gens ils vont se dire, ah bah lui c'est un gars qui débute, ouais, pas mal. Non, j'ai envie d'arriver et que les gens se disent, mais il était où ce gars en fait pendant tout ce temps? Il se cachait où? Et donc ça, bah, ça peut prendre du temps. Donc j'ai lu pas mal de livres, j'ai écouté pas mal d'interviews et je sais que ça peut prendre du temps tout ça. Il y a le côté formation qui prend beaucoup de temps au niveau de l'humour, et après il y a le côté, comme tu dis, un peu fame, qui prend du temps à se faire connaître, ça prend énormément de temps. Donc à moins d'avoir énormément de chance et de buzzer à un moment ou à un autre dans ta carrière,
ouais, alors,
ça c'est, t'as une chance sur un millier, bah, pour avoir beaucoup plus.
Tu peux buzzer, moi c'est ça, c'est qu'en fait il y a pas mal de gens qui me disent qu'il faut faire que je fasse des vidéos, tout ça,
ouais,
pour que ça buzz, et même si je buzz, je fais un truc qui est génial, après tout le reste faut que ce soit à fond parce que sinon le buzz il redescend très vite, hein.
C'est ça.
Du coup j'ai envie de me former de fou, ouais, et puis buzzer, mais qu'après je sois toujours bon, tu vois,
bah, que voilà, buzz, en
voilà,
fait. Et c'est ça le problème aujourd'hui qu'on a. Je vais prendre un exemple qui est pour moi le plus parlant, en fait. Par exemple Inès Reg,
ouais,
elle a, je la connaissais pas avant en fait, ses vidéos avec son mec là, et elle a buzzé avec le mémoire des paillettes dans ma vie Kevin là. Et après ça, si tu veux, elle a réussi un peu à faire en sorte que ce buzz perdure un petit peu. C'est vite redescendu. Après, elle a refait quelques trucs. Tu vois, elle a essayé de surfer un petit peu sur cette vibe de buzz. Mais le problème, c'est ça, c'est de tomber au fond des oubliés très rapidement.
Ouais.
Parce que tu peux très bien buzzer et après, en fait, tu veux finir au fond. Et ce que j'ai pas envie de faire, c'est buzzer sur un truc et me dire que les gens vont me connaître juste pour ça, en fait.
Ouais.
Parce que c'est ça le problème de faire de la scène et de vouloir à côté faire des vidéos, faire des trucs, des machins. C'est que moi j'ai envie qu'on me reconnaisse en tant qu'humoriste et pas qu'en tant que mec qui a montré son cul dans une vidéo de Mufa et Carito, tu vois.
Je suis entièrement avec toi. Après, je respecte les gens qui sont pas comme ça. Et puis moi, tu sais, j'ai pas mal de potes qui me disent oui, Vincent, faut que tu fasses un truc pour percer. Et je pense pas que, faut, comme tu disais tout à l'heure, la fame et tout, c'est un peu gros. Si pas, demain j'ai un truc et j'arrive à fonctionner tout le temps, je vais pas dire bah non, c'est pas ce que je voulais. Mais moi pour l'instant je me fixe, genre je veux juste mon 1005 par mois, comme par exemple Sam Melia, il a fait pendant 10 ans le stand-up avant de là il commence à bien fonctionner, mais il avait son salaire, il était tranquille, tu vois. Moi je veux commencer comme ça, faire un truc, avoir un petit salaire, pas commencer à toucher des 5000 et tout ça,
non,
tout de suite, tu vois, ouais, parce que si tu te dis qu'en 3 ans c'est bon, je vais me faire 5000 euros par mois, ça va être génial, et je dis 5000, je sais pas combien les gens gagnent, mais bah non, tu vois, moi je veux juste mon petit 1005, ce serait très bien, tu vois. Commencer comme ça, et puis après, monter, mais.
D'accord, 1005, je sais pas quel travail tu fais à côté, tu fais quoi à côté?
Moi, à la base, en fait, j'avais arrêté le travail.
Ouais.
J'avais arrêté le travail.
En fait, j'avais commencé
en janvier, du coup, janvier 2020. Je continuais à travailler à côté et tout. Et à un moment, je me suis dit, du coup, j'ai commencé à avoir mon plateau à Fontainebleau. Il y avait un autre gars, un théâtre qui m'avait contacté, à Moret-sur-Loing. Alors, c'est, tu connais pas sûrement, mais c'est en Seine-et-Marne. Okay. Avec moi et Adrien, le gars que j'ai vu avant, qui est pour qu'on gère ça, pareil, sans, comme vous, 110 places tout, j'étais super content. Et à côté, je me suis dit, attends, je vais prendre un open mic sur Paris, comme ça, je vais pouvoir tester des vannes,
ouais,
et les réessayer ailleurs. Un peu comme vous avez fait,
c'est
tu vois.
La même façon de fonctionner. Ouais.
Mais du coup, à plus de distance, voilà. Donc moi, ça reste Paris, tout ça.
Ouais. Ouais, mais juste, tu pouvais à traverser, voilà. T'avais,
c'est l'avantage. Et, je me suis dit, bah, attends, je vais pas pouvoir gérer, me lever à 7h du matin, rentrer le soir à 2h du matin.
C'est un rythme.
Reprendre,
ouais, c'est chaud.
Donc je me suis dit, je vais pouvoir arrêter. Donc j'ai arrêté début septembre.
Okay.
Octobre, tout ferme. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais reprendre le travail.
Ah, et du coup,
là, actuellement, je suis chaudronnier soudeur. Okay. Et fin juin, j'aimerais arrêter et tout reprendre.
Ouais.
Et on verra comment ça se passe.
Mais il faut être prêt.
J'ai la chance quand même d'avoir un taf genre chaud d'un soudeur, c'est un truc qui est vachement cherché. Tu vois, j'ai travaillé ici. Quand j'ai voulu venir ici, j'ai déposé des CV. Une semaine après, on m'a appelé, on m'a dit, ouais, Vincent, c'est bon, on a trouvé un taf pour toi et tout. Okay. En dehors de bon intérim. C'était un taf qui était prévu pour un CD et tout. Et du coup, je suis parti, mais genre, j'ai la chance de pouvoir avoir un taf que si vraiment ça fonctionne plus ou si voilà, voilà, j'ai un plan B, tu vois, je vais pas me dire, ouais, c'est bon, je fais ça et puis c'est bon, je vais réussir.
Tu serais jamais lancé là-dedans, en fait, en te disant, bon, bah, Balek, on verra ce qui peut se passer.
Oui, voilà, et, voilà. Non, si jamais je dois reprendre le taf, je reprendrai le taf. Et puis, en vrai, j'aime mon métier. Je sais que à 30 ans, ça va commencer à me saouler. Mais pour l'instant, j'aime mon métier, donc ça va.
Parce que t'as quel âge, du coup, je t'ai déjà
demandé? 23 ans. Et toi?
23 ans. Moi, j'ai 21 ans.
21 ans? Putain. Et t'es plus grand que moi.
Eh bah, oui.
J'ai dégueu. Mais ouais, genre, faut pas viser, je suis d'accord avec toi, faut pas viser la fame tout de suite.
Non. Faut vraiment savoir pourquoi tu fais ça et avoir les bonnes motivations. Moi, j'en ai rencontré, je citerai pas de nom, mais j'en ai rencontré des mecs qui faisaient vraiment ça, qui essayaient d'être un peu sur toutes les plateformes, tu vois. Faire un peu être sur YouTube, être sur TikTok, être sur machin. Et c'est pas les bonnes motivations, clairement.
Ouais,
tu sens, enfin, le truc, cette flamme va vite s'essouffler parce que tu vas vite perdre espoir et parce que tu vas voir que le fait de buzzer, en fait, c'est très très compliqué. Et je te dis, c'est une chance sur un million de buzzer sur un truc aujourd'hui. Quoique aujourd'hui, avec internet, ça va très très vite. Mais non, si tu pars du principe que tu veux d'abord être connu avant d'être fort sur scène, arrête.
Bah non, parce que oui. Ouais.
Faut être fort sur scène et après tu vas devenir connu. C'est dans ce temps-là.
Et faut avoir un mérite d'être connu. Faut pas une vidéo, t'es connu. Non. Faut avoir un mérite, genre du travail.
Ouais, du travail, c'est exactement, ça. C'est ça. De toute façon, tu regardes, hein, tous les mecs connus aujourd'hui, c'est des charbonneurs. On dirait pas comme ça, il y en a pour certains, mais c'est des charbonneurs. Et comme je te disais, on en parlait avant, quand j'écoutais les podcasts de Kian Kojandi là, un bon moment, tous les humoristes qui sont passés chez lui, il le dit à chaque fois qu'il le dit, mais toi, à chaque fois que je te vois, tu taffes, tu charbonnes. Et les mecs, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, bah, ils posent cette question, quel conseil vous aurez à donner aux jeunes humoristes qui se lancent? C'est taffer. Franchement, taffer, comptez pas vos heures, écrivez à fond. Et un mec qui veut vraiment la fame, il va pas faire ça. Il va pas réfléchir comme ça. Il va se dire, non, moi, il faut que je travaille pour avoir un truc bon et être connu. Il va pas se dire, il faut que je travaille pour m'améliorer, pour avoir un bon niveau, pour être connu. C'est vraiment pas la même. Il y a quelque chose, il y a un petit truc qui change, tu vois, mais ça fait toute la différence.
Bah oui, de toute façon, c'est pour ça qu'en fait, tu les vois facilement, tu vois qu'ils sont sur tous les réseaux, qui partagent des stories. Même moi, pendant le confinement, t'as peut-être vu sur mon Insta, mais j'ai commencé à faire des vidéos. Pas drôle, ouais, vraiment, mais moi, j'ai pas trouvé ça drôle du tout. Sauf une où c'était un peu rigolo pour mon anniversaire où j'étais confiné, quoi. Mais à part ça, j'ai fait des vidéos pas drôles et je me suis dit, mais attends, d'ailleurs, faut que je les supprime. Avant de sortir, faut que je supprime. Non, mais c'est pas drôle. Et je me suis dit,
Après, tu te cherches peut-être aussi.
Ouais.
Peut-être qu'au final, ton truc, c'est peut-être pas ce genre de vidéo. Peut-être qu'il faudrait que tu vois aborder ça sous un autre angle.
J'ai des idées de vidéos, mais en fait, j'aimerais rester dans l'univers du stand-up. Bah, tiens, je vais en parler. Tu sais, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube en ce moment où c'est des youtubeurs connus qui font des activités.
Ouais.
Genre, tu sais, ils font un truc. Et moi, j'aimerais ça un peu une sorte de laser game. Okay. Par exemple, laser game ou n'importe quelle activité. Et qu'en fait, à la fin, il y en a un des humoristes qui doit faire un 5 minutes sur l'activité qu'il vient de faire, tu vois.
Ok.
Parce qu'en fait, je trouve qu'on n'a pas assez la culture de l'open mic. Les gens ont du mal à venir aux open mic, ils disent non, les gens, ça va pas être drôle et tout.
Ouais.
Alors que je trouve ça génial d'être là à la création d'une blague, tu vois.
Totalement, ouais.
Et du coup, pour ramener ce truc-là, tu vois, j'aimerais beaucoup faire une vidéo comme ça. Tu vois les gens, ce qu'ils ont fait avant, et après, tu vois comment le gars a réussi à l'embellir, tu vois, à faire une vanne là-dessus.
Ouais. Ça peut être cool aussi de se lancer des défis comme ça, de se dire, bon, bah, faire une session, de ramener du monde, et de se dire, bon, les gars, ok, on a un thème commun, on a, je sais pas, une heure pour écrire 5 minutes là-dessus, et après, on voit ce qui se passe, tu vois.
Ouais, non, ce serait génial.
Un bon concept, ça.
Ce serait génial. Après, faut de l'argent, et du coup, je fais des podcasts pour l'instant. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit?
Quand j'étais petit, j'ai voulu faire énormément de choses quand j'étais petit, mais moi, j'ai toujours voulu être acteur, en fait. Acteur et à la fois faire rire, juste faire rire en fait. J'avais pas de métier particulier qui m'intéressait. Après, j'ai eu des périodes où je voulais être kiné, j'ai eu des périodes où je visais des métiers parce que j'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui sont dans la santé, tu vois. Mais j'ai pas tout de suite voulu faire de l'humour, non, vraiment, moi ce qui me faisait kiffer, c'était. J'étais un très très gros fan de cinéma, quoi. Et je me voyais vraiment derrière une caméra, je me voyais vraiment jouer des personnages, j'adorais ça. Si tu veux, quand j'étais petit, j'ai commencé, je faisais des petits sketchs avec la petite caméra de ma mère, et je me mettais en scène, et puis des fois le week-end, quand il y avait toute ma famille qui venait, je leur disais, oh, est-ce que je peux vous passer le petit film que j'ai fait? Donc du coup, ils se mettaient tous sur le canapé, je leur passais ça, c'était ridicule. Je m'amusais à reprendre des passages du film Brise de Nice, tu vois.
Ouais.
J'étais très fan de, un très très grand fan de Jean Dujardin. Et c'était ridicule, mais c'était déjà cette petite étincelle qui faisait que j'avais envie de jouer, en fait, j'avais envie de me mettre en scène. Et vraiment, non, je pense que j'avais pas vraiment de métier que je convoitais, mais c'était plus ça, en fait, c'était m'amuser. Moi, j'ai toujours voulu m'amuser, je suis un grand gamin.
Et tu penses que par rapport à... Tu me disais que tu avais pas mal d'idées de métier et tout, ouais. Et tu penses que là, maintenant, t'as trouvé le truc que tu voulais vraiment faire, ou ça reste encore un peu comme une idée que t'avais déjà eue avant?
Aujourd'hui, je pense que moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite, en fait. Je change beaucoup d'avis sur les choses très rapidement. Je me lasse beaucoup, enfin très rapidement des choses. Et je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté mes études, que j'ai fait deux parcours différents au niveau des études. C'est que j'arrivais pas à trouver ce truc qui me gardait, en fait, qui me gardait dans le bain, quoi. Et avec l'humour, en fait, avec la scène, ça fait un an maintenant et ça passe tellement vite que... J'ai pas l'impression de mettre. Enfin, j'ai l'impression d'avoir vu 5% de ce qui pouvait se passer. Mmh. Et il y a tellement de choses à faire. Et non, franchement, je me suis jamais autant amusé à faire quelque chose et je me vois pas arrêter ça, en fait. C'est un truc de fou. J'ai pris le pli et j'ai pris le goût de ça et je ne vois pas du tout, quitter ce milieu, en fait.
Ouais, tu as sûrement entendu dans le podcast de Ken Pojandi, à un moment, il parlait de, je crois, Lionel Messi ou Ronaldo, où il disait. On parlait de son salaire et les gens disaient mais on paye pas, je le ferai quand même.
Oui.
Et c'est pareil pour le stand-up, genre j'en parlais avec mes parents, ils me disaient oui mais
c'est Ronaldo qui avait
ouais
dit
c'est
ça.
Ronaldo et genre mes parents ils me disaient oui mais non mais Ronaldo il aurait continué, il aurait peut-être pas eu d'argent, il aurait peut-être fait moins, tu vois. Mais moi par exemple si à 40 ans j'ai encore mon travail, je suis encore chômeur soudeur et tout, je pense que le soir j'irai encore faire de la scène parce que ça, c'est le truc qui...
Et il y en a plein des gars comme ça. Si tu veux qu'on prenne l'exemple du foot, moi, je me dis, tous les mecs qui sont dans des divisions en dessous de la Ligue 2, c'est des mecs qui n'en vivent pas, quoi.
Ouais.
Qui se dégagent un petit salaire, mais ils sont obligés d'avoir un travail à côté. Et pourtant, c'est des mecs qui vont charbonner à l'entraînement, qui vont faire les matchs, qui vont se donner à fond, tu vois. Et nous, c'est pareil. Aujourd'hui, on n'en vit pas, mais on se donne à fond pour pouvoir... un jour, peut-être, pourquoi pas, monter en Ligue 1, quoi.
Ouais, mais c'est comme quelqu'un qui fait de la guitare en tant que passion, comme ça, ouais. De temps en temps.
Ouais.
Et nous, c'est pareil. Ça, c'est que souvent, les gens, moi, ils me disent « Ouais, mais tu fais ça pour être connu un jour. » Franchement, si je le suis, je dis pas non. Mais si je le suis pas, tant pis. Si je dois faire à 60 ans encore monter sur scène devant un public de 10 personnes, je le ferai.
Totalement.
C'est vraiment un truc qui tient encore.
Ouais.
T'as pu écrire, là, pendant le confinement?
Wow. Pas du tout. Alors ça, c'est la question. Alors ça dépend quel confinement.
Non, mais tout le long. Tout le long.
Je t'avoue que le premier confinement, ça m'a miné le moral parce qu'on avait pas mal de projets, j'avais pas mal de choses de prévues, de dates, de contacts, des choses comme ça. Et puis ça s'est vraiment arrêté net, quoi. Quand on a découvert ce que c'était que le confinement, on s'est dit « Ah ouais, ok, c'est violent, c'est long, c'est chiant. Comment est-ce qu'on va sortir de ça ?» Donc moi, j'ai pas eu l'inspi, j'ai pas eu la déter d'écrire. J'ai essayé de me motiver quelques fois, mais... En fait, je partais du principe que quand tu vis plus, ou quand tes journées se ressemblent toutes, t'as plus l'envie de raconter en fait ce que tu fais. Enfin, parce que toi-même, tu te fais chier dans ta vie, et t'as juste envie d'un truc, c'est que ça s'arrête, quoi. C'est de recommencer à vivre pour réavoir l'inspiration. Donc, ce premier confinement, j'ai rien fait du tout. Le deuxième, je me suis un petit peu remis à écrire. J'en ai eu trois, oui.
Ouais, j'en ai eu beaucoup.
Je suis perdu. Mais on va dire que là, ça va faire 4 mois que je me suis remis à écrire, quoi. Vraiment assez régulièrement. Parce que, en fait, la deadline approche, tu vois, on va pouvoir remonter sur scène. Et j'ai l'impression que moi, je fonctionne très beaucoup comme ça. Je suis quelqu'un, je procrastine pas mal. Mais quand il s'agit d'avoir une deadline et de me dire, bon, là, tu vas monter sur scène, mec, donc juste motive-toi à écrire, motive-toi à faire un truc. Là par contre, je me mets à écrire. Moi, je fonctionne très beaucoup comme ça, la deadline. Donc, j'ai envie de te dire, oui et non, j'ai essayé. Mais c'est pas la période où j'ai le plus écrit.
Ouais, non, mais je comprends, parce qu'en général, tu racontes ce que tu vis, et quand tu vis rien, tu racontes rien.
Et c'est ça. Et je me suis rassuré en posant la question à mes potes, tu vois, ils m'ont dit, pareil, pas trop la déter, quoi. Et à l'opposé, des mecs comme Paul Mirabel, ils ont charbonné leur confinement. Je me dis, mais ces mecs, ils vont chercher des trucs où, en fait, enfin, à un moment, tu vis plus. Enfin, c'est juste trop fort de continuer à écrire et de continuer à garder ce rythme. Après, ils sont obligés, tu vois. Eux, ils sont arrivés à un stade où tu peux pas t'arrêter pendant 3 mois et dire peace, vas-y, je vais faire FIFA pendant 3 mois et balèque, quoi. Donc, nous, on peut, on s'en branle, c'est pas notre métier. Mais non, c'était une période compliquée et je suis content qu'on en soit, entre guillemets, plus ou moins sorti, quoi.
Mais moi, je n'arrive pas à travailler chez moi.
Ah Ouais.
Genre, t'arrives toi à travailler chez toi?
Ça dépend. Ça dépend. Il y a des moments où je vais me déterre, tu vois. Je vais mettre un peu de musique. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise à bouger, à aller dans un parc, à aller dans un bar. On se fait beaucoup de sessions d'écriture, en fait. On va dans notre petit bar, on se réunit. Et puis moi, j'aime beaucoup quand j'écris, tu vois, des fois me poser, juste je pose le crayon, je ferme l'ordi, puis tu sais, je me pose, puis je regarde les gens. Je regarde les gens, je regarde ce qui se passe, puis je me pose des questions. Je dis, lui, il va où comme ça? Pourquoi lui, il est sapé comme ça? Mais eux, ils sont en couple, ou ils sont potes? Enfin, et ce genre de questions, en fait, ça va me faire réfléchir sur quel sujet j'ai envie d'aborder. Et des fois, je vais avoir des flashs d'illumination en me disant, putain, mais c'est ça. Et je m'inspire beaucoup de ce qui m'entoure. Et c'est vrai que quand t'es dans ta chambre tout seul, bah, y a pas grand chose qui se passe.
Ouais.
Donc en fait, si tu veux, j'ai d'abord en fait cette préparation entre guillemets à l'extérieur, et après quand je sais sur quoi j'ai envie d'écrire, je sais sur quoi je vais partir, hop, je me mets dans ma bulle, je reste tout seul, et là ça y va.
Ouais,
mais j'ai besoin des deux. J'ai besoin d'avoir ce côté où je suis vraiment entouré de gens, entouré de choses qui se passent, et ce côté où j'ai besoin de me renfermer, en fait.
Oh, ok. Mais d'ailleurs, je voulais savoir, est-ce que tu sais qui m'a donné vos contacts?
Alors, pas du tout.
Parce que vraiment, moi à la base, je vous connaissais pas, et je sais qu'il partait un week-end à Angers, et je voulais commencer ce podcast. Je me suis dit, attends, il y a un mec à Angers qui est un comedy club. Pour moi, il y en avait qu'un.
Ouais.
Je me suis dit, il y en a un. Qui c'est? Et alors, j'ai demandé à Adrien, il m'a pas répondu tout de suite. Et c'est Tom Baldetti qui m'a répondu. Lui, il faut que je l'aie aussi sur peut-être très drôle.
Ah,
très drôle. Tom. Non, allez le
Tom, c'est le frérot.
Ouais. Ah ouais, non, il même sur Insta, il est fou, il me fait
trop rire. Ah, Tom il est incroyable. Et puis bah Tom et Yassir, parce qu'au final maintenant, c'est un peu plus un duo les deux. Mais ouais, Tom, bah en fait, si tu veux, nous Tom, c'est Ben et Nathan qui l'avaient rencontré à Paris, il me semble, au Barbès, la scène de Shirley. Et du coup, ils se sont rencontrés par hasard, tu vois, et ça a matché de fou, quoi, parce que bah, Tom, tu vois bien comment il est.
Ouais, non, il est fou.
Un amour, ce mec. Et gros big up. Et non, nous, on l'a invité deux, trois fois, à chaque fois, des très très bonnes soirées, franchement. Là, d'ailleurs, il va revenir sur Angers quand on va reprendre la deuxième semaine avec Yassir.
Vous reprenez quand?
Alors, on reprend le...
Donne les dates, hein, comme ça, si les gens
écoutent. Ouais, j'ai plus les dates exactes, mais bah, dès le jour de la réouverture, je crois que c'est un mercredi.
C'est le 9 juin, ça reprend.
Alors, le 9 juin, non, ouais, c'est ça. Le 9 juin, on reprend un mercredi, donc sur la plus petite scène avec le petit comedy club que Rémi, il a monté en solo, parce que du coup, on voulait pas faire des soirées Angers Comedy Club, plusieurs soirées dans la semaine. Si tu veux, on a notre soirée Angers Comedy Club du dimanche, et à côté, on a monté des comedy clubs annexes. Et donc là, on va reprendre sur la plus petite scène, sur ce comedy club annexe, pour se remettre un peu dans le bain.
Ouais, bye.
Et là, on sera que les humoristes d'Angers. Et on reprend le dimanche d'après, du coup, sur la grande scène, avec Tom, Yassir et je sais plus qui il y a dans la prog, Antoine, Nathan, Rémi et moi, quoi, je crois.
D'accord.
Comme ça.
Ok.
Mais ouais, Tom, très très marrant. Moi, j'avais été le voir aussi au Westside à Nantes. Et enfin, c'est un tueur.
Ah, moi, je l'avais vu la première fois, je l'avais vu. En fait, je me souviens, il m'avait... Je lui avais dit que j'avais un comedy club et tout. Il me dit, ah ouais, c'est où et tout. Et il voulait venir. Je fais, ok, bah, envoie-moi une vidéo.
Il est friand, en fait, des plans. Vraiment, c'est un mec. Non, mais il s'en bat les couilles. Tu lui dis, j'ai une scène, peu importe, c'est dans le trou du cul du monde. C'est un gars, je suis sûr, il y va balèque. C'est vraiment
le mec. Mais c'est ça, c'est que, genre, il me demande mon truc. Je fais, bah, envoie-moi une vidéo parce que je peux pas, c'est un plateau. Du coup, je peux pas prendre n'importe qui et tout. Je envoie sa vidéo. Et juste après, on est allé au Fridge. Et je le vois sur scène. Putain, il est drôle.
Il a joué au Fridge.
Ouais, il est allé au Fridge.
Ah, ok.
Mais en open mic, en open mic.
Ouais,
non, non.
Ah, ouais, d'accord.
Non.
Je me suis dit, putain, le gars, il est drôle, il se met bien.
Non, il était en open mic avec moi.
D'accord, ok.
D'ailleurs,
le Fridge, parce que moi j'en ai entendu parler, j'ai Ben et Nathan qui sont allés. Non, c'était Rémi qui est allé voir l'ouverture. C'est cool.
Ouais, franchement, c'est très bonne ambiance.
J'ai très bonne là-bas.
La quoi?
La bouffe.
Alors, j'ai pas mangé là-bas. Parce que c'est un peu cher pour moi.
Ouais.
Mais
c'est Paris,
ça reste Châtelet, Paris. C'est voilà. Mais non, la scène est géniale. Franchement, ouais. C'est génial, c'est super beau. Non, Kev Adams, il a fait un très beau taf.
Ouais.
Vraiment, c'est Kev Adams. Je sais plus comment il s'appelle, le graffeur qui a fait. Je sais pas si t'as vu un peu les graphes qu'il y avait.
J'ai pas vu.
Il y a, je pourrais même pas te dire les noms des gens qui étaient graffés.
Il a monté ça tout seul,
mais tu sais, le décor, tout ça, c'est pas lui, il est pas graffeur, tu vois.
C'est pas lui qui a designé la scène.
Ouais. Et vraiment, enfin, peut-être la scène, il l'a designé, mais tu sais, il y a un moment, il y a pas mal de graffiti et tout avec des humoristes et tout, mais Vraiment, c'est magnifique. C'est très beau. Et,
ouais, je regarde les photos.
Et c'est une salle vraiment géniale. Ouais. J'ai vu des bonnes scènes là-bas.
Beaucoup de place.
Il y en a 80, je crois, quand même.
Ah, quand même,
donc c'est quand même pas mal. Ouais.
Bonne scène, ouais.
Un peu plus que le Barbès, même si le Barbès... Vous t'es dit allé du coup au Barbès?
Pas du tout, mais moi je sais que j'ai jamais été à Paris. La dernière fois que j'étais à Paris, c'était quand j'avais 10 ans. Et je
ah ouais
suis jamais allé voir.
Mais quand tu veux, tu montes. Quand tu veux, tu montes.
Parce qu'il me faut le temps, et puis il faut aussi des moyens de pouvoir loger, des choses comme ça. Et il y a un moment, là, il n'y a pas très longtemps, je voulais aller sur Paris. Justement, j'avais voulu contacter Tom, et puis au dernier moment, ça s'est pas fait. Du coup, j'ai fait bon, ce sera pour une prochaine. Mais je sais très bien qu'on a pas mal de contacts maintenant sur Paris. Je serais très très content de vous aller.
Ah ouais, mais moi, vous venez quand vous voulez. Hein. Sur mon truc à Fontainebleau, vous venez quand vous voulez.
Je note ça, et puis.
Parce que j'ai vu que vous avez fait des tournées et tout un peu.
Enfin, ouais, bah des tournées.
Ouais, voilà, ouais, non, mais. Je fais enfin, parce que vous n'avez pas fait tout le tour de la France.
Non, on n'a pas fait, on n'est pas un groupe de musique, mais on a essayé de s'exporter un petit peu à droite à gauche. Tu vois, on a été joué une fois à Lille, on a été joué à Tours, on est resté quand même un peu dans le coin. Il y avait vraiment Lille où c'était vraiment le plus loin, mais je sais qu'on a moyen, quand on veut, je pense, d'aller jouer à Bordeaux, on a des potes là-bas, d'aller jouer à Paris aussi. On avait une entente en fait avant le premier confinement avec un comedy club de Paris. Alors attends, parce que j'ai zappé le nom. Il y a Émeric Carrez, tu vois un petit groupe.
Ouais,
bah, ils avaient un petit groupe en fait, ces gars-là, ils étaient 3-4, et puis donc nous on les a accueillis tout le groupe, et eux ils nous ont dit bah les gars, vous venez quand vous voulez en fait, vous venez avec votre groupe quand vous voulez. En fait, on a fait un espèce d'échange de comedy club, tu vois, et ça c'était très marrant. Donc on n'a pas eu encore l'occasion d'y aller en équipe, mais en fait plus ça va et plus on se dit que Paris, on va prendre notre temps.
Ouais,
pas, comme je te disais avant, c'est pas une finalité en soi, on n'a pas envie de se ridiculiser, on a envie d'arriver là-bas avec notre bagage, et que les gens se disent waouh. Wow.
Après, moi, ça peut être rassuré, moi, c'est pas Paris même, on est en pleine province, donc déjà les gens rigolent fort.
Mais en fait, je dis ça, mais pourquoi pas faire des open mic? Enfin, pourquoi pas essayer.
Ouais, moi, il va y avoir vraiment un open mic normalement sur Paris.
Des petites salles, des choses comme ça. Moi, il n'y a pas de souci avec ça, mais je me dis. Pas les open mic, non, je dis de la merde, mais par exemple, toi, si t'as ton comedy club.
Ah ouais, franchement, sur Fontainebleau, vous venez avec. J'ai vu que vous transportez votre affiche Angers Comedy Club.
Ouais.
On marque Angers à Fontainebleau, un truc comme ça.
Bientôt, on va l'enlever parce que ça fait un peu amateur. Là, on est en train de voir pour avoir un néon.
Tu sais quoi, j'y ai pensé aussi, mais après. Voilà. Il y a financement, mais ouais.
Il y a financement parce que c'est des trucs faits sur mesure,
ouais,
ça coûte un peu la peau du tout, on va pas se mentir. Mais on veut vraiment notre néon parce qu'on se dit le jour où on aura ça, ça aura tellement plus de gueule, quoi.
Bah ouais, non, mais
Donc, tu vois, on est encore un peu en construction, vraiment.
C'est cool. Ah non, mais c'est vraiment bien ce que vous faites, ce que j'ai vu un peu sur internet. D'ailleurs, très dégoûté. Hier soir, je me suis dit, attends, pour trouver des questions, je vais aller voir vos lives Twitch.
Ouais.
Mais du coup, c'est qu'en live.
Alors, voilà. Et bah, ça, en fait, si tu veux, on a fait un live, on a voulu tester un peu Twitch, on a fait un live pour les 1000 abonnés. Sauf que pour la petite histoire, on était à 970 abonnés avant de, je sais pas, la semaine avant de lancer la com. Et plus on se rapprochait du jour J, plus en fait le nombre d'abonnés augmentait. On a commencé live, on était à 997 abonnés. Donc en fait, on avait juste 3 abonnés pour passer les 1000. Donc on n'avait pas trop à forcer. Et non, pas de rediffusion. Pas de rediffusion en fait, tout simplement parce que c'était le premier. C'était vraiment très, très décousu au départ, au début du live. À la fin, c'était très cool parce qu'on a pu échanger pas mal avec les gens. Mais si tu veux, nous, Twitch, moi je connais, je regarde, tu vois, mais jamais fait. Et l'ambiance live, l'ambiance un peu podcast, tu vois, c'est vraiment particulier. Moi, j'aurais envie personnellement de continuer dans cette voie-là. Et les gars aussi, d'ailleurs, ils sont très très chauds. Pourquoi pas avoir des invités, pourquoi pas te faire venir, tu vois, ça pourrait être cool d'avoir l'histoire, le ressenti de chacun, un peu comme ce qu'on est en train de faire. Mais Twitch, c'est un autre monde. Donc on attend de voir un petit peu, de voir si les gens réclament ou pas. Et puis pourquoi pas faire quelque chose d'hebdomadaire ou de mensuel sur Twitch, tu vois. On a envie de toucher un petit peu à d'autres plateformes, comme on a comme projet de filmer les coulisses aussi des soirées. Donc pour pouvoir faire des petits montages et puis mettre ça sur YouTube pour que les gens se rendent compte en fait de l'envers du décor du stand-up. Parce que c'est pas quelque chose, enfin je connais une chaîne YouTube qui fait ça, mais c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, tu vois. Le stand-up, l'envers du décor. Moi en tout cas, je sais que j'ai pas, quand j'ai commencé et même encore aujourd'hui, j'ai pas vu énormément de choses là-dessus, tu vois. Donc je me suis dit ça peut être cool de voir l'ambiance, ce qui se passe dans une loge, ce qui se passe derrière un rideau, tu vois, avant que ça monte sur scène, le stress, l'arrivée des gens, et puis nous aussi en termes de travail, on a envie de montrer la visibilité, enfin on a envie de montrer aux gens en fait tout le travail qu'il y a autour d'une soirée, de l'organisation, tout ça, quoi. Pas parce qu'on attend de la reconnaissance, mais parce qu'on a envie de faire connaître ça aux gens.
Ouais.
On a envie de montrer que le stand-up, c'est pas que on monte sur scène. Là, nous, sur Angers, c'est vraiment, il y a un gros taf avant, il y a un gros taf pendant, il y a un gros taf après, tu vois.
Mais en plus, limite, ça peut donner envie à d'autres personnes qui sont en province, hein, j'ai envie de dire, parce que sur Paris, il y a pas mal de trucs, mais en province pour créer leur truc, parce que là, en vrai, il y a... Il y a Nantes, Angers, il y a Marseille, toute la Côte d'Azur, tout ça, il y a pas mal de comedy clubs. Il y a pas mal. Bordeaux, ouais, c'est, tu vois, je savais pas. Mais il y a plein d'endroits où il y en a pas. Lille, il y en a un ou pas?
Lille, alors Lille, il y a plusieurs comedy clubs. Il y a le Spotlight. Nous, on avait été jouer dans un comedy club, l'Industrie Comedy Club. Mm. Bon, là, c'est plus excentré. Hein. C'était vraiment particulier parce qu'en fait, à la base, ce comedy club-là, pour la petite histoire, c'était une ancienne chicha. Mm. Donc déjà, quand on te dit chicha dans le stand-up, tu commences à transpirer. Et puis bah c'était au tout début du Covid, donc tu vois c'était une salle, une super salle avec des canapes, mais on aurait dit vraiment un magasin de meubles quoi. C'était tout plein de canapes en cuir, des fauteuils en cuir, une scène trop stylée avec des lumières de fou. Genre sur la scène il y avait un espèce de grand fauteuil, genre un trône, tu vois. Mmh. Et en fait on a rempli que 25. On a fait deux sessions à 25, alors que de base le mec nous a dit t'inquiète, il y aura 100 personnes. Covid entre temps, à Lille apparemment ils avaient un peu les pétoches. Mais c'était cool, tu vois, c'était la première fois qu'on s'exportait aussi loin. Mmh. Donc Lille. De mémoire, il y a le Spotlight, il y en a d'autres, mais j'ai plus les noms. Tu vois, Antoine pourrait t'en parler plus que moi, parce que vraiment, Lille, c'est une ville où il a beaucoup plus joué. Mais Lille, très, une ville avec beaucoup de potentiel de l'humour.
Ouais, d'accord. Tu vois, je ne savais pas du tout. Mais il y a pas mal d'endroits, je ne sais pas, tu vois, si Strasbourg, il y a des trucs ou quoi.
Ah,
bah,
mais dans l'Est, je ne sais pas du tout.
Je sais pas du tout.
Je sais pas du tout.
Je sais qu'il y a un truc qui s'appelle le Routier, où il y a des gens qui y sont déjà allés.
Okay.
Mais je crois que c'est un petit truc, un bar, un théâtre-bar, tu vois.
Ouais.
Comment ça s'appelle? Un café-théâtre.
Un café-théâtre.
Un petit café-théâtre.
Mais un comedy club,
il fait un peu de tout. Mais je sais pas si. Mais du coup, ce que vous faites, ça peut donner des idées à certains de.
Bien sûr, et nous, c'est ça d'ailleurs, aussi, ouais. C'est d'inspirer les gens et puis de leur donner envie, tout simplement, tu vois. Que ce soit pour se lancer sur scène ou que ce soit pour monter leur propre truc. Je sais que si un jour, il y a un gars qui se détache du groupe, un mec qu'on a fait monter sur scène qui se détache du groupe et qui nous dit, bah les gars, moi j'aimerais bien aussi monter mon truc, mais nous, on va lui dire, mais 100%, mec.
Ouais, c'est bien.
Ton truc, ça nous fera juste une chance de plus de monter sur scène.
Bah ouais, de fond.
Donc, let's go. Puis,
c'est alors, ça, c'est que.
Angers, tu vois, au départ, quand j'ai appris qu'il y avait un comedy club et tout, en fait, je me suis dit, mais putain, mais c'est énorme qu'il y ait ça sur Angers. Enfin, pourquoi est-ce que j'en ai pas entendu parler plus tôt? Et là, on s'est très vite rendu compte que moi, j'aime bien dire ça. Et les gars, à chaque fois, ils me volent la réplique. Mais je dis qu'Angers, c'est un énorme bac à sable, tu vois. Il y a tout à faire. Tu peux t'amuser comme tu veux, il y a tout à faire. Mmh. Les gens connaissent pas. Donc, t'arrives avec ton truc, tu niques tout. Et voilà. Et puis, les gens applaudissent parce qu'ils sont trop contents d'avoir ça ici, quoi. Mmh. Donc, non, franchement, c'est super cool. Moi, j'encourage énormément les gens à monter leur propre projet. Et ça demande du temps, ça demande pas mal d'énergie, ça demande de la patience aussi. Mais franchement, une fois qu'on est dedans, une fois qu'on a goûté à ça, on peut plus s'en sortir. On peut plus s'en détacher.
Ouais, non, c'est clairement ça.
C'est ultra addictif, c'est un truc de fou.
C'est clairement ça. Mais du coup, moi, ça me fait plaisir de parler avec des gens qui commencent. Parce que je me dis, je pense que les autres aussi, mais pas tous.
Je trouve ton concept super intéressant parce que c'est vrai que c'est pas banal d'aller voir des jeunes qui commencent. En général, les jeunes, on va pas leur parler parce qu'ils ont pas de vécu, parce qu'ils ont. Ils n'ont pas autant de choses à raconter que les grands, tu vois. Et puis on va se dire, mais pourquoi est-ce qu'on l'écouterait lui alors que ça fait un an qu'il a commencé, tu vois. Et je trouve ça très intéressant, en fait, ta démarche. Ça montre aussi que bah, même ceux qui commencent depuis peu de temps, en fait, ont une énorme motivation. Enfin, peuvent avoir une énorme motivation, tu vois.
C'est des gens qui ont la niaque, en fait, vraiment, ouais, qui veulent
rester en fond dedans. On se dit, pourquoi pas nous, en fait. Et les grands, ceux qui sont là-haut, ils se disent, bah oui, pourquoi pas eux. Mais avoir en fait ce côté début en fait est très très cool. Moi j'aime.
Ouais, non, mais c'était vraiment le but parce que très souvent on entendait des gens qui faisaient ça depuis longtemps et tout, et je me suis dit attends, moi je pense que j'aurais eu plus envie de faire du stand-up en attendant des gens qui commencent. Voilà, je me suis gamellé, tout ça, vraiment. T'entends ça chez les gens qui sont connus et tout, t'entends, ouais, je me suis gamellé. Mais tu dis, ouais, mais maintenant, il en parle maintenant.
Ouais.
Et maintenant, il a réussi. Donc, voilà, il n'a pas le même.
On raconte ça, mais voilà, nous, c'est 2 mois, tu vois.
Voilà, c'est ça.
C'est plus récent, donc on a plus de recul.
Exactement.
Enfin, on a encore énormément de recul là-dessus, mais c'est tout frais, donc on peut en parler plus facilement.
Ouais, non, mais exactement. Mmh. C'était vraiment le but du podcast. J'ai un petit jeu pour
dis-moi,
toi.
Dis-moi,
alors.
Je suis très nouveau jeu, hein, vraiment.
Alors, non, c'est-à-dire, je te rassure. Alors d'ailleurs, on va parler de Rémi parce que il m'a pas répondu sur Insta. Ouais. En fait, il y a un petit jeu. Tu veux?
Dis-lui franchement, j'en ai rien à foutre, je le dis. Hein, il a pas d'excuses, il est tout le temps sur son téléphone.
En plus, c'est quoi? On balance.
Mais pour sa défense, il reçoit vraiment énormément de DM. Il m'a montré, c'est incroyable.
Il a de la chance,
il
pas
a
moi.
De la chance.
En fait, j'ai demandé à des gens des choses sur toi ou des choses. On veut te dire des choses. Tu vas deviner qui me les a dit.
Ok.
Ok. Ça peut être les mêmes personnes ou quoi.
Le cercle est assez restreint.
Ouais, le cercle est assez restreint. Ouais. Malheureusement, il y a des gens qui m'ont pas répondu et je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Donc, j'en ai que trois trucs.
Ok.
Alors, c'est moi qui ai foutu le feu à l'hôtel lors du gala. Du coup, maintenant, je vois l'histoire. Mais ouais. Et voilà.
Ah, du coup, je t'ai expliqué sans le savoir. Ok, c'est moi qui fous. Bah, ça, je dirais que c'est Antoine.
Ouais, c'est Antoine.
Ouais, c'est Antoine. Il aime bien foutre la merde, il aime bien avoir ramener sa petite graine là. Ouais, c'est ça, c'est Antoine.
Du coup, bah, maintenant, ça va être plus simple. Du coup, comme tu en as parlé aussi, ouais. T'as commencé le stand-up en même temps que lui.
C'est ça, en même temps que. Ah oui, d'accord. Bah, Nathan.
Ouais, Nathan, évidemment.
Dis-moi tout.
Et, du coup, le dernier. Alors ça, j'étais très surpris et c'est très drôle. À chaque soirée Comedy Club, dans tous les endroits, il était obligé d'aller chier pendant 20 bonnes minutes. Et il envoie toujours une petite photo de lui pour immortaliser le moment. Alors ça, mais déjà pourquoi? Avant de trouver qui, pourquoi?
Ah là, l'enculé. Alors ça, ouais, c'est vrai que c'est une habitude que j'ai parce que j'ai beau avoir fait du théâtre avant, j'ai beau être monté pas mal de fois sur scène, on a toujours, peu importe le bagage, on a toujours ce stress d'avant scène. Et moi, le stress, ce qu'il faut savoir, c'est que ça me fait énormément chier dans tous les sens du terme. Et des fois, c'est un truc de fou, mais je vais chier mais deux ou trois fois avant de monter sur scène. Ça me rend malade. Ça me rend malade des fois. Et mais ça, enfin, je vais pas dire c'est un bon stress parce que c'est quand même emmerdant. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Mais ouais, j'ai cette manie d'aller chier n'importe où je vais. Donc bah, si t'as un comedy club, j'espère que t'as des très bons chiottes. Parce que
normalement ça va. Normalement ça va. Je te rassure.
Ouais, c'est vraiment. Les gars en plus sont morts de rire à chaque fois parce que quand ils me voient pas, ils savent très bien où je suis. Et puis moi, je revois tout le temps.
Oui, c'est ça. C'est que la photo. En fait, c'est que le principe, je le comprends, tu vois. Ouais. Mais la photo, je la comprends pas.
J'en vois pas ce qui se passe.
J'en
vois pas ce que j'ai créé, mais j'en vois l'instant. J'immortalise l'instant en disant bon, bah, les gars, vous savez où je suis, quoi. Et ouais, non, c'est vrai que c'est une manie que j'ai. Comme on a tous nos façons de. On a tous nos petits tocs avant de monter sur scène, bah moi c'est ça. C'est mon délire.
Et du coup, qui aurait pu me dire ça?
Et bah du coup, c'est Ben, forcément.
Non.
C'est même pas Ben. C'est Nathan.
Ouais.
Ah, c'est Nathan. Ah ouais, ok, d'accord. Ah oui, parce que tu m'as dit Nathan avant, mais je m'attendais à ce que tu dises un truc et je pensais que tu étais passé sur quelqu'un.
Ouais, non. Du coup, il n'y a que eux qui m'ont répondu. Ben, je ne connais pas du tout, donc j'aurais su, j'aurais demandé.
Ok, ouais.
Mais c'est pas grave. Écoute, Tom non plus ne m'a pas répondu.
Après Tom, tu vois, on se connaît pas.
Bah, c'est ce que je me suis dit. Je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu les connais? Est-ce que tu aurais quelque chose à me dire, tu vois?
Et Tom, j'ai une idée déjà. Enfin, j'ai une idée de ce qu'il aurait pu me dire. Mais putain, ok. D'accord, ça.
Mais du coup, en off, tu me diras des choses sur Rémi et Nathan.
Bien sûr, totalement.
Comme ça, je pourrais leur dire.
Ah bah, je vais me venger.
C'est le minimum, c'est le minimum quand même. Du coup, j'étais la semaine prochaine, c'est ça?
C'est ça, la semaine prochaine.
Ouais. Ouais. Déjà, je pense, je voulais te parler des podcasts. Genre, je pense que c'est un podcast qui va. Non, ça va aller. Mais c'est après, c'est à toi, hein. Moi, les croissants.
Je mange pas très beaucoup le matin.
Ah, d'accord.
Mais,
moi, je suis.
J'en prendrai un pour la route.
Et moi, tant mieux, parce que moi, je suis. Alors, depuis 3 jours. Hein, mais ouais. Je suis végétalien, depuis 3 jours.
Ah ouais?
Ouais, j'ai décidé d'aller. Putain, merde.
Ah la vache, non, pas toi. Mais bah, écoute.
Non, mais c'est pas grave.
Super. Ouais, mais c'est une bonne démarche pour.
Ouais, on va. Pour l'écologie.
Pour l'écologie. Okay. Pour l'écologie. En général, c'est ça. Hein. C'est soit pour l'écologie, soit pour son corps.
Ou pour la souffrance animale, des fois. Ouais, mais okay. Moi, c'est plus.
214, tout ça, t'as bouffé des vidéos.
Ouais, alors en fait, non, même pas ça. Ah. C'est que, bah, pareil, encore un café de 7, Rémi Boy. Tu vois qui c'est, Rémi Boy ou pas? Ouais. Il disait dans un café de 7 qu'il est devenu végétarien en bouffant des documentaires. Mais pas en bouffant des documentaires. Il m'a dit, j'en ai regardé quelques-uns et en fait, j'ai vite compris que fallait le devenir, tu vois. Et moi, j'avais très envie, j'ai fait cette démarche-là avant.
Ah,
végétarien. J'ai arrêté, j'ai repris tout ça. Ouais. Et là, je me suis dit, j'en ai bouffé deux des documentaires. Et c'est vrai que quand tu regardes des documentaires, tu te dis, ouais. Bah ouais.
C'est horrible.
Moi, après, je suis pas casse-couille, hein. Je suis pas casse-couille en mode, faut que tout le monde arrête de manger.
Végétalien,
Non. Là, j'essaye de vraiment. J'essaye. Ça va faire 3 jours, vraiment, 3 jours.
3 jours, ok.
Ouais, j'ai regardé 2 documentaires et puis je me suis
dit. Donc là, potentiellement, il y a un domac qui peut partir. À tout moment,
exactement. Ça peut partir très vite.
Ouais, ça peut partir très vite.
Non, on va essayer de tenir. On va essayer de tenir. Et le podcast, je pense qu'il y a un podcast qui va percer dans 10 ans. Quand tout le monde aura percé, les gens que j'interview, ils vont dire, ah putain, il a fait un truc avant quand il était pas connu et tout.
Ouais.
Et j'espère que dans 10 ans, les gens, ils vont écouter ce podcast et me dire, attends, ça c'est Maxime. le gars qui est connu et tout. Ouais. Tu vois, ça serait super sympa.
Ça serait super sympa. Et puis c'est marrant, mais on voit beaucoup ça aussi quand dans l'émission Les Enfants de la Télé. Non. Tu vois, ils aiment bien montrer, je vois les premiers passages sur scène quand c'est des humoristes ou un premier passage à la télé quand c'est des acteurs et de voir d'où c'est parti. En fait, c'est toujours intéressant avec du recul, comme tu dis, 10 ans plus loin. De se dire putain bah il y a 10 ans en fait je pensais comme ça, ça se trouve dans 10 ans je pensais totalement d'une façon différente, ça se trouve dans 10 ans je serais menuisier, on en sait rien.
Ou végétalien.
Végétalien, ça fait un bon projet de vie plus tard. Mais c'est super d'avoir ce recul après plus tard. Et puis moi écoute, quand j'écouterai ça, je me dirais ouais c'est moi. Et puis dans 10 ans, c'est ce que je me dirais, c'était moi.
Ouais.
J'aime vraiment ça.
Du coup, je verrai au mois d'août pour revenir et j'aimerais bien vous avoir tous les quatre si c'est possible.
Ouais.
Antoine est là, mais okay. au moins tous les trois du moins. Ce serait super cool qu'il y ait une grande discussion, tu sais, avec beaucoup de monde. Ouais. Ce serait vraiment sympa.
Bah c'est ça aussi le concept qu'on voulait faire aussi sur Twitch avec les lives, c'est vraiment d'inviter des gens et puis de parler de stand-up, parler du parcours de chacun, du ressenti de chacun, du vécu de chacun, des galères de chacun, parce qu'il y a beaucoup de galères au final avec la scène. Moi je suis très friand des anecdotes, je suis très friand du vécu en fait de chacun. C'est inspirant et puis ça te permet en fait de voir en fait les erreurs que les autres ont fait et que toi t'as peut-être pas encore fait et d'éviter de les faire ou de se dire que tu vas forcément devoir les faire pour avancer.
Ouais.
Donc c'est cool.
Et d'ailleurs, tiens, c'est un truc que j'ai oublié de dire, si vous montez sur Paris un jour, préparez-vous parce que la province, on est bien. Ouais. Paris, on n'est pas bien du tout.
C'est ce que tout le monde dit. Paris, apparemment, c'est un autre monde. C'est vraiment parce que le public sait ce que c'est le stand-up. Le public connaît et le public t'attend en fait. Ici, comme je te disais, ils s'attendent à rien et ils sont super, super surpris, enfin vraiment agréablement surpris et très contents. Mais Paris, c'est pour ça que Paris, il faut vraiment être prêt. C'est clair et net, tu peux pas te lancer à corps perdu à Paris, sinon tu te pètes la gueule, tu te dégoûtes du métier et puis tu rentres chez toi bredouille et tu pleures et tu finis menuisier ou végétal. Mais non, Paris, Paris c'est pas une légende, franchement.
Parce que, moi du coup qui fais un truc en province, même si c'est en Île-de-France, en province un peu, quand j'ai fait ma première là-bas, je me suis dit, j'espère que ça va se passer. Les gens ont éclaté de rire, vraiment. Okay. Adrien, il faut vraiment qu'un jour vous le voyez. Il est extra. Il est génial et comment dire. Et il a pété vraiment ce soir-là. Il a pété à l'arrivée. Il est passé avant-dernier. Il a pété et tout. Et on s'est dit, putain, en province, les gens rigolent fort, tu vois.
Ouais.
Et vraiment, sur Paris, même s'ils connaissent le stand-up.
Parce qu'ils connaissent, mais ils ont pas ce côté gêné de rigoler. Nous, je sais qu'au début des soirées, on se disait, putain, mais ça rigole pas trop. En fait, si t'as un bon MC, un bon premier passage, les gens, du coup, il y a toujours un petit peu il faut qu'ils se mettent à l'aise, il faut qu'ils se détendent, il faut qu'ils voient que les gens rigolent, il n'y a pas de honte à rigoler. Et il y en a qui, justement, ont plus de mal parce qu'ils connaissent pas le concept. Il y en a qui vont regarder ça comme ils regarderaient la télé chez eux, tu vois. C'est marrant ce qu'il fait, c'est cool. Et le délire Comedy Club, c'est vraiment, rigole en fait. T'es là pour kiffer. Donc rigole, bats les couilles des gens derrière, t'en fous, t'es là pour kiffer le mec qui fait des blagues, tu vois. Et Paris aussi, je voulais revenir sur un truc. C'est que c'est pas le même humour. Il y a vraiment un humour parisien.
Ouais,
et un humour provincial.
Ouais.
En général, l'humour provincial plaît beaucoup à Paris, comme des fois il peut ne pas plaire. Hein. Et l'humour de Paris, des fois, ça nous est arrivé, ne plaît pas tout le temps en province par contre. Et les Parisiens, le problème qu'ils ont en général, c'est qu'ils se disent, moi j'arrive à faire rire à Paris, donc je vais forcément réussir à faire rire en province. Et il y en a certains, pareil, je ne citerai pas les noms, qui sont venus et qui se sont rétamés la gueule parce que ils sont arrivés en mode c'est dans la poche. Je viens de Paris en fait. Mais non mec, c'est pas parce que tu viens de Paris que tu peux faire rire.
Ah ouais, non mais c'est ça.
Paris, c'est pas la France, tu vois. Pour les Américains, oui, mais pas dans le stand-up, tu vois.
Et vraiment, ils rigolent beaucoup plus fort en province. Par contre, je suis pas trop d'accord avec toi quand tu dis que les gens sont ils connaissent le stand-up à Paris. Et c'est vrai, ils connaissent le stand-up, mais par exemple, tu regardes. Alors, moi, je te dis que ce qu'on m'a dit, si j'ai jamais allé, mais par exemple, au Québec, il paraît que c'est Daniel Dutel ou plein de gens disaient vraiment, les gens rigolent fort, ils connaissent très bien le stand-up, et du coup, c'est génial pour faire le stand-up
c'est
là-bas.
C'est pas la même culture, je trouve.
Voilà, c'est pas la même culture. Mais du coup, eux, ils connaissent le stand-up encore plus que les Parisiens, et ils rigolent vraiment bien, tu vois. Contrairement aux Parisiens, je pense que les Parisiens ont un côté coincé. Vraiment, ça c'est un truc, c'est véridique. Ah non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Hein.
Ouais.
Mais ils ont un truc coincé et que faut vraiment que ce soit une très bonne blague. C'est en plus ils ont un truc un peu de théâtre, de trucs comme ça où faut que ce soit. Je sais plus qui c'est ça. Tu vois qui c'est? Urbain Topito.
Urbain, bien sûr.
Ouais. Ouais, par exemple. Et il fait un podcast, je sais pas si tu connais, plutôt caustique.
Non.
Ah, clairement, je fais la pub, il est génial, vraiment. Okay. C'est avec un autre pote de Topito, donc il parle pas de, il parle un peu d'humour, mais c'est un truc drôle. Vraiment, c'est drôle.
Et
ben, je note. Et il dit souvent que les, en, comment dire, sur Paris, les gens ont l'habitude de tout ce qui est théâtre, tout ça, et de dénoncer. En fait, genre, faut faire un humour un peu qui dénonce et tout. D'ailleurs, la plupart des gens qui fonctionnent bien sur Paris, c'est des gens un peu qui dénoncent tout ça.
Ok, l'humour engagé un peu.
Ouais, l'humour un peu engagé. Ouais. Alors que des fois, il y a des, comme j'en parlais dans le podcast d'avant, il y a des bonnes blagues de bites qui sont très drôles.
Ah ouais, ouais. Ouais,
on va pas se mentir.
Non, on va pas se mentir.
Mais c'est ça, mais sur Paris, tu vois, ça fonctionne beaucoup moins. Alors qu'en province, tu vois, moi j'ai un sketch sur l'épilation. Et, sur Paris, ça fonctionne. Mais en province, ça fait rigoler vraiment tout le monde, ouais. Tu vois. C'est, je pense que c'est surtout Paris, c'est pas qu'ils ont la culture de stand-up, c'est qu'ils sont beaucoup plus coincés, je pense.
Coincés sur certains sujets.
Pas sur certains sujets, c'est que ils peuvent en parler, mais genre ils peuvent en rigoler, mais entre potes. Genre si tu montes sur scène, c'est pour dire quelque chose. Si tu viens sur scène, tu fais juste des blagues pour rien dire, viens pas sur scène. Je pense qu'il y a beaucoup de ça sur Paris. Après, ça commence à changer.
Mais ça se travaille aussi, parce que je vois, on n'a pas tous des morales dans nos sketchs, on n'a pas tous.
Ah oui, non, mais absolument.
On n'a pas tous du recul sur certaines choses. Et au départ, tu commences par monter sur scène pour faire rire, en fait, plus que pour exprimer un point de vue ou faire réfléchir les gens. Là où Roman est très fort, c'est que lui, vraiment, tu ressors d'un de ses sketchs ou d'un de ses spectacles, t'es en mode. Putain, je vois plus la vie de la même façon, quoi. C'est,
ouais,
ça te retourne l'esprit, et je pense qu'ils sont friands de ça, les Parisiens. Mm. Ils sont friands en fait, qu'on leur éclate leur bulle de confort, qu'on leur dise, mais mec, juste ouvre les yeux, en fait.
Mm.
Et c'est vrai que si t'es là juste à dire, à déblatérer des blagues de cul pour faire rire ou quoi que ce soit, ça va peut-être moins plaire, j'imagine.
Mm. Ouais, ouais. Donc,
je vois exactement ce que tu veux dire.
Ouais, bah, justement, il parlait de Roman encore urbain, et il disait que ce qu'il faisait, en fait, il a commencé à percer vraiment. Il fonctionnait bien, mais il a commencé à percer quand il était sur Click.
Ouais.
Tu vois. Et genre, il voulait rentrer ton coloc.
Non, c'est qu'il y a un coup en l'air.
Ah, ok. Ah non, c'était le coloc.
C'est ça.
Bonjour.
T'inquiète, ça sera coupé. Hein,
non, mais t'inquiète, ouais, y'a pas de problème.
Ça va, bro. Tu veux faire le
café ? Salut, Vincent. Non, je vais pas le couper, je vais le laisser.
Bah, du coup, à Maxime aussi.
Maxime.
C'est bien trouvé.
D'accord, génial. Et il disait qu'il a commencé à percer quand il était vraiment sur Click.
Ouais.
Et sur Click, il disait des trucs un peu engagés, tu vois. Et c'est comme ça que. Alors, il disait en France, moi je trouve que c'est plus sur Paris que ça fonctionne. Et je vais te poser aussi une autre question.
Dis-moi.
J'ai vu du coup, t'as mis une vidéo où tu. Pas mal d'impro.
Ouais, j'ai mis un petit passage.
Un petit, quand même 4 minutes, tu vois, genre plusieurs en coupé, tu vois. Mais t'es pas mauvais en impro en vrai.
Ça va, bah en fait si tu veux là c'était la première fois que je me lançais en tant que MC, donc je devais en remettre une autre avec beaucoup plus d'impro et pour moi un truc un peu plus quali. Et ouais en fait on se teste un petit peu en tant que MC parce qu'on se dit qu'on va aussi progresser en faisant de l'impro, hein, totalement. Tu peux apprendre ton sketch par cœur, mais si à un moment t'as un mec qui lâche un truc, bah il faut être prêt en fait, il faut être prêt à rebondir là-dessus, à avoir de la répartie. Et il faut montrer que c'est toi le boss.
Mmh.
C'est très important. Parce que si tu te fais déstabiliser par n'importe quel trou de balle qui comprend pas le concept du stand-up et puis qui se dit qu'il est dans son salon avec son pote qui fait des blagues, voilà, t'arrives pas à tes fins. Quoi.
Mmh.
Donc, non, j'ai mis un petit passage de 4 minutes où du coup, en plus, c'était une soirée où il y avait pour la première fois mon daron. Et d'ailleurs, je me suis dit dans le passage, gros big up au daron. Et non, un peu d'impro. Et puis voilà, bah, j'avais mis un petit passage de ce que je fais aussi. Et c'était aussi une façon pour moi de montrer aux gens que ça y est, je m'étais lancé, parce que tout le monde n'était pas au courant dans mon entourage que je faisais ça. Et puis c'était une façon de me montrer aussi. Et puis tu sais, aujourd'hui, les mecs que tu contactes vont te demander souvent d'avoir un bout de vidéo, un bout de truc à
présenter,
quoi, juste pour qu'ils se rendent compte de ce que tu peux faire sur scène.
Mmh.
Et donc ça m'a servi aussi là-dessus. Mais plus je la regarde et plus je me dis que c'est plus je la regarde et plus je me dis que c'est plus tellement représentatif en fait de ce que je fais aujourd'hui. Il y a eu l'évolution et c'est ça qui est cool. Et tu vois là par exemple on s'est fait un week-end avec les gars écriture et on s'est amusé à regarder notre premier passage et notre dernier passage et voir l'évolution, c'est ouf quoi. C'est ouf de se dire que le premier passage on était tellement gênés à regarder ça, on s'est dit mais putain on est vraiment monté sur scène avec cette idée en tête, avec ce sketch. Et c'est ridicule. Et enfin, c'était ridicule, non. Enfin, c'était plutôt courageux. Mais nous, avec notre ressenti, enfin nous, avec notre recul, on se revoit, on se dit, putain, ridicule, quoi. Et là, le dernier passage, et c'est ça qui est cool, c'est de voir l'évolution en très peu de temps. Et moi, je trouve que tu peux progresser énormément, enfin très rapidement. Mais il faut travailler.
Ouais.
Et donc, bah, comme tu. C'était quoi du coup ta question ? Excuse-moi,
Mais non, mais alors attends. qu'est-ce que. Ouais, si t'étais bon. Je trouvais que t'étais bon en impro. Je dis, c'est pas une question, je trouvais juste que t'étais pas trop mauvais en impro.
Bon, je me qualifierais pas trop de bon, mais.
Par rapport à moi, je sais que.
Ouais, peut-être un peu de mal.
Alors, moi, genre, il y a eu une soirée où vraiment il y avait une meuf qui parlait. Et elle coupait et tout, elle me coupait. Et même, tu sais, j'avais un sketch où je disais que si je vous parlais de mon surpoids et tout, et j'étais là, je disais. Je suis à 1,70 pour 95 kilos. Moi, ma chute, c'est Beau Bestio, tu vois. Et ouais. Genre, la meuf, elle dit, oh putain, c'est gros. Et, mais vraiment, du coup, en fait.
En fait, c'était peut-être pas contre toi, ça a dû sortir naturellement.
Ouais, mais, non, avant déjà, ouais. Quand je présentais et tout, du coup, le truc. Ouais, non, elle coupait et tout. Et j'ai essayé l'impro, et vraiment, ouais. Bah, il y avait mon oncle ce soir-là et ma mère. Et ils m'ont dit, en vrai, t'as pas trop mal géré, parce que moi, je suis le genre de personne, tu vois, tu me dis que t'avais été serveur et tout,
ouais.
Moi, c'est le genre de choses que je peux pas faire, j'ai beaucoup de mal avec le contact avec le client.
Ah ouais.
Genre, si on me parle mal, bah, je vais mal parler aussi, tu vois.
Okay.
Donc là, j'ai essayé de prendre sur moi,
ouais.
Voilà, j'ai essayé de prendre sur moi ce soir-là.
Ouais, parce qu'il faut je pas non que... plus descendre en public et mettre un coup de tête.
C'est ça, mais c'est ça, mais des fois t'as envie.
C'est pas du stand-up, c'est du MMA.
Des fois t'as envie, des fois tu te dis, ah, calme-toi. Ouais.
Mais y'en a qui méritent, hein. Y'en a qui méritent.
Non, mais y'en a, c'est.
Ah, y'en a à la sortie, t'as envie de leur mettre des balayettes parce que tu te dis, putain, mais c'était quoi ton but en fait? C'était kiffer la soirée ou me foutre dans la merde?
Mais c'est ça, t'as envie de leur dire. Bah, c'est ce soir où il y avait Franjo. Et Franjo, okay. D'ailleurs, l'a bien recalé.
Ouais.
La meuf, elle était vraiment, vraiment chiante.
Je pense qu'il y a des gens, des fois, ils savent pas où ils sont tombés, où ils ont atterri, ils connaissent pas le concept, ils se croient trop chez eux. Et si tu les recadres pas, si tu te fais pas respecter, si tu montres pas que c'est toi le boss sur scène, après, t'en termines plus. Enfin,
ouais.
Plus, quoi. Moi, ça m'est arrivé aussi, hein, une meuf qui m'avait dit dans mes premières scènes, c'était une blague ça? Ah, mais c'est là qu'il fallait rire. Et franchement, moi, c'était tellement chiant, deux, trois fois, tu sais, la première fois, je fais, bah, ferme ta gueule, non? Enfin, tu vois, au début, ouais. T'essayes un petit peu de dire ça en rigolant, t'essayes de la recadrer, mais quand tu vois que la personne, elle comprend pas, elle est foncièrement teubée au point de se dire, bah non, en fait, je m'en branle, je vais faire ce que je veux, je vais dire ce que je veux, je respecte pas du tout le travail de ce monsieur.
Mmh.
Franchement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé court au sketch, ça m'a dégoûté, et je me suis dit, bon, bah écoutez, je vais laisser la place au prochain. Je pense qu'il y a des fois, tu peux réussir à recadrer les gens, mais quand tu sens que vraiment,
ouais, quand tu veux, quand tu prends peut-être un plan.
C'est vraiment triste de se dire que, de se laisser abattre et de se dire que, en fait, la personne a gagné. Mais il y a des fois, je pense qu'il n'y a rien à en tirer. Et moi, ça m'est arrivé vraiment une seule fois. Et c'est formateur. Hein. Ça m'est arrivé une seule fois et je me suis dit, bon, bah, plus jamais, en fait. Plus jamais j'ai envie de ça. Donc, du coup, je me suis un peu forgé une espèce de carapace au niveau de l'impro en me disant, le premier qui parle, je lui expose sa mère, quoi.
Enfin, gentiment. Ouais, non, ouais, évidemment. Gentiment,
mais vraiment, vraiment. Dans les débuts, ça arrive très souvent. Et surtout quand les gens connaissent pas le concept, tu vois.
Ouais, et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont l'habitude, entre potes, à être la personne la plus drôle.
Ouais.
Et qu'ils comprennent pas que, bah, t'es peut-être drôle entre potes, mais sur scène, c'est différent.
C'est ça.
Et en fait, ils ont envie d'être plus drôle, tout quoi, comme si c'était un concours. Alors que demain, tu mets sur scène le gars, il commence à bégayer.
Oui.
C'est ça.
Mais moi,
ils comprennent pas la différence, tu vois.
Moi, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, mais si t'as envie de parler, mais viens, en fait,
prends le
micro et parle, fais des blagues. Juste, là, c'est pas toi qui as le micro, t'es dans le public, je suis sur scène, respecte notre travail. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à capter ça. Et il y a des gens qui pensent aussi que, parce qu'ils sont drôles en société avec leurs potes, ils peuvent monter sur scène et faire rire. Ça, c'est
très souvent.
C'est un cliché qu'on a sur l'humour, c'est si t'es drôle en société, t'es drôle sur scène.
Ouais.
Pas du tout, ça n'a rien à voir.
Bah, la preuve, ce que tu me disais au départ, c'est que toi, t'avais commencé à écrire tes premiers trucs comme si t'étais avec tes potes.
C'est ça.
Et que ça n'a pas fonctionné. C'est que, c'est pas, tu vois, moi, avec mes potes, je suis drôle, mais pas non plus le plus drôle.
Ouais.
Pareil, je suis, pareil.
Il y a l'humour sur le moment, il y a l'humour préparé. C'est
absolument.
T'es un mec qui va très bien, peut très bien ne pas être drôle, être un peu introverti, être un peu timide, tout ça, pas trop vouloir être dans la vanne, et écrire des trucs de fou. C'est deux mondes différents. Alors, moi, je les sépare totalement.
Et toi, t'es timide dans la vie ou pas du tout?
Pas du tout. Moi, bah, mon coloc pourra t'en parler si bien que moi. Mais non, moi, je suis assez extraverti. J'aime beaucoup aller vers les gens et j'ai aucun mal avec ça. Quoi. Ce que je dis aux gens, c'est que j'ai aucun tabou, j'ai aucune gêne. Je suis très ouvert d'esprit et si tu veux déconner avec moi, bah, y a pas de souci. C'est avec grand plaisir. Quoi.
Ok.
Donc, non, j'ai jamais eu de problème avec ça.
Y en a un des quatre de vous quatre qui est timide ou
pas?
Parce que faut, en fait, je t'explique, il faut que je trouve quelqu'un de timide. Parce que j'ai une pote qui comprend pas. En fait, je lui dis que je suis timide. Moi, je suis quelqu'un de timide. Et elle me dit,
Elle me dit,
mais non, mais tu.
Casser cette timidité.
Par exemple, on allait voir un plateau, il y avait Paul Mirabel, et Paul Mirabel disait, ouais, il y a des timides dans la salle et tout. Moi, je suis timide. Et ils disent, mais non, mais c'est pas vrai. T'es pas timide alors que tu montes sur scène.
Ouais.
Alors que sur scène, genre, c'est différent. Et t'as toujours le choix quand même d'aller sur scène. Mais dans la vraie vie, par exemple, moi, tu me demandes d'aller parler à une fille. Impossible d'aller parler à une fille dans la vie. Impossible. Ouais. Ou de, par exemple, je suis dans un.
Bah, après, entre un poster, un mec et une fille, c'est pas la même.
Ouais, mais même un mec, genre, par exemple, si je suis dans un groupe de potes et il y a une, deux personnes qui vient, ça va, tu vois. Mais par exemple, si je suis avec un pote ou deux et qu'on est dans un groupe de personnes, bah, je vais pas me sentir bien parce que je connais pas les gens, tu vois.
De gens que tu connais,
bah, là, du coup, il y a un groupe de personnes que je connais pas, des gens que je connais pas, j'ai pas à me sentir bien et puis je vais être un peu timide. Et justement, on me dit souvent, ouais, avec le stand-up, normalement, tu devrais pas être timide. Alors que si, énormément, tu vois.
Il y a des grands timides qui montent sur scène et qui sont pas à l'aise. Qui sont à l'aise sur scène parce qu'ils jouent un rôle, un personnage, qu'ils ont un micro, qu'il y a un public. Et en dehors de la scène, ça va être totalement différent. Ça, c'est un a priori qu'on a, je pense. C'est faut pas être timide pour faire de la scène. Non, tu peux être timide et faire de la scène. Alors, tu me posais la question à savoir qui est timide dans le groupe. Je dirais pas timide, mais beaucoup. Enfin, calme, réservé et un peu en retrait, je dirais Nathan. Nathan, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, mais ce mec, c'est vrai qu'il n'a pas énormément d'énergie sur scène, est-ce que ça cache pas quelque chose? Et en fait, c'est sa façon à lui d'être, en fait, un peu ce mec un peu mou, mais foncièrement gentil, tu vois. Et je dirais pas timide, et c'est pas le mot, et je pense qu'il t'en parlera mieux que moi, mais moi, dans le groupe, je pense que c'est celui qui est le plus.
Plus réservé.
Plus calme et réservé, ouais. Tu vois. Mais par contre, quand on est ensemble, il va se lâcher.
Oui, mais quand tu es avec
toi. Et après, il y a une évolution aussi. Moi, entre le moment où je l'ai rencontré et aujourd'hui, il y a une énorme évolution. Et je trouve qu'on a tous pris un peu de comment dire, de bagou. Et puis, le bagage, en fait, fait qu'on est beaucoup plus à l'aise.
Oui, par contre, je pense que le stand-up, ça aide à être moins timide.
Exactement.
Ça, c'est sûr, ça aide.
Et moi, le stand-up aussi, ça m'a servi. Je fais pas mal d'entretiens d'embauche. Et je me suis rendu compte que, en fait, il y a une différence entre. Enfin, il n'y a pas de différence entre être un entretien d'embauche et être sur scène. Parce que il faut. Enfin, sauf que tu joues pas un personnage et que tu racontes pas de blagues, tu vois. Mais,
en entretien d'embauche.
Mais il y a une gestuelle à avoir. Il y a une aisance au niveau de ce que tu vas dire. Et non, je pense que ça aide énormément dans la vie de tous les jours.
Ah, moi, tu vois, je trouve que je joue plus un personnage en entretien d'embauche que sur scène.
Ça dépend du taf et ça dépend de ton CV, ça dépend de ce qu'on attend de toi. Moi aussi, je l'ai fait. Hein. Ouais. Je vais pas te mentir. J'ai déjà joué des personnages pour avoir un job. On le fait tous, je pense. Mais non, je pars du principe que le stand-up, ça peut que aider des gens dans
la vie
tous les jours.
Ouais, oui, c'est sûr. Mmh. C'est pour ça, je sais plus qui disait ça, mais qui voulait que les. Attends, je vais trouver. Haroun, avec Ken Kojandi. Et dans un bon moment, il disait qu'il aimerait bien qu'il y ait du stand-up, mais en tant que passion, comme il y a du théâtre, des groupes de théâtre et tout.
Il y en a qui font ça en loisir, en fait.
Mais alors, ouais, mais j'en vois pas beaucoup. Par exemple, il n'y a pas de club de loisirs. Moi, j'ai envie, pareil encore avec Adrien, du coup, qui est en Seine-et-Marne aussi comme moi, il faut que. On veut faire un truc dans les écoles. Genre, je me souviens que dans mon lycée, il y avait un truc de musique. Donc les gens, ils venaient, ils faisaient un peu de musique et tout ça. Et j'ai envie de faire ça un peu, moi, dans les écoles, tu vois. T'arrives une à deux heures par semaine. En temps libre, les gens ils viennent, ils font du stand-up.
Je veux faire ça en fait.
Ah ouais, grave bien.
C'est le projet que j'ai envie de monter dans le lycée où je suis. Cette année, j'ai pas pu le monter parce que Covid est très très galère en fait de monter des projets cette année. Mais pour l'année prochaine, si ça se calme pas mal, moi j'aurais comme projet de monter un espèce de
un comedy club, mais ouais,
d'humour quoi. Histoire que les jeunes, je pense qu'ils ont tous un vécu, tous des choses à raconter et qu'ils puissent savoir comment s'exprimer et pourquoi pas après monter les faire monter sur scène, tu vois. Que ce soit mes élèves que je fais monter sur scène, ça pourrait être vraiment un bon délire. Donc moi je suis très très partisan de ça, de faire découvrir aux gens et puis de monter des projets comme ça, c'est super. C'est super, surtout avec des jeunes.
Ouais, de fou. Et j'avais aussi une question, j'écoutais tout à l'heure sur la route le podcast d'Amel Chabi. J'écoute beaucoup de podcasts.
Ouais, c'est super.
Je sais pas si tu l'as écouté, celui d'Amel Chabi.
Non.
Non, je crois qu'il y a 4-5 épisodes. Et en fait, il disait que la plupart des gens qui montaient sur scène, c'était des gens qui avaient des fêlures, tout ça. Et alors, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord.
Alors, j'attendais énormément cette question parce qu'en plus, on en a parlé hier avec mon coloc. Et je te laisse terminer.
Ouais. Moi, je connais pas tous les gens qui font stand-up, mais je pense pas que ce soit un gars qui a grandi en tant que genre qui a jamais eu de soucis dans sa vie. Tu vois des. C'est pas pour faire cliché, mais quelqu'un qui a jamais eu de soucis d'argent, de quoi, qui a toujours grandi dans des grandes écoles, tout ça, qui a toujours été populaire. Qui a... Je sais pas s'il pourrait faire du stand-up, je pense pas. Après, j'en ai jamais rencontré, mais peut-être que ça existe.
Un mec pour qui tout lui réussit.
Voilà, tout lui a toujours réussi. Ouais. Et je pense vraiment que, justement, en plus, quand on fait des blagues, c'est en général des problèmes qu'on a vécu, tu vois.
Ouais.
Je sais pas qu'est-ce que tu racontes comme blague, mais je pense qu'il y a des trucs.
C'est beaucoup de galères avec les filles.
Mais bah par exemple, tu vois, ça peut être une fêlure. Genre quelqu'un qui a toujours eu des meufs, il va pas te raconter ouais j'ai galéré avec les meufs. Déjà, ça se verrait qu'il a pas galéré parce que ça s'entendrait, tu vois. Mais moi par exemple je parle du harcèlement à l'école ou quoi, je pense que tout le monde a eu des fêlures et en entendant le stand-up et je pense
donc,
pas que...
Je pourrais parler des mêmes sujets que toi parce que... Mmh. Bah parce que je te laisse...
Non vas-y c'est fini, c'est fini.
En fait si tu veux, ce que je disais avec mon coloc hier c'est que j'ai entendu ça, je pourrais plus te dire qui, c'est dommage, mais les humoristes au final on est tous un peu des clowns tristes.
Ouais.
Et on a tous, en fait si tu veux c'est marrant mais on a tous eu des moments je pense où ça allait pas. Et où on se retrouvait en fait dans l'humour.
Mmh.
On s'est tous plus ou moins, je pense, forgé une carapace autour de l'humour pour ne pas laisser paraître en fait ces moments de faiblesse et ces moments où vraiment mentalement on est pas bien, tu vois. Et moi, quand j'étais plus jeune, du coup, enfin,
Et puis là, je peux pas t'aider. C'est pas grave, prends le temps.
Pas caché dans l'humour, mais. Réfugié, merci.
Réfugié. Putain, alors, merci à Maxime, merci à le deuxième Maxime.
Ouais, voilà. Beaucoup de gens qui sont réfugiés dans l'humour parce
Attends,
que.
Attends, tu vas prendre la place de Maxime. Maxime,
ouais, voilà.
Bien.
Tu veux faire un petit podcast. Non, réfugié dans l'humour. Et moi, par exemple, quand j'étais tout petit, en fait, la seule façon pour moi d'être populaire, ça a été d'être drôle. Et c'était mon gros point fort, en fait, c'était que je faisais rire tout le monde. Mmh. J'adorais faire le pitre et j'adorais amuser la galerie, et ça, on m'a toujours dit. Tu prends mes bulletins scolaires de la primaire jusqu'au lycée, c'était ça qui revenait pas mal de la part de mes profs comme de mes potes. Et j'ai eu une grosse période quand j'étais au collège où tel collège c'est très très méchant.
C'est dur.
C'est dur le collège. Et on a tous vécu des choses, je pense, enfin tous non, mais beaucoup de gens ont vécu des choses compliquées au collège et après même au lycée. Moi j'avais une période où j'étais pas mal en surpoids et où je sais que au collège on est foncièrement méchant et gratuitement et ça peut blesser, en fait on peut blesser sans le vouloir au collège et ça détruit des enfances, hein, clairement. Et moi mon seul moyen de faire face à ça c'était de me dire que j'arrivais quand même à faire rire les gens malgré le fait que physiquement on me faisait des reproches, on me faisait des blagues. Et puis tu sais souvent c'est pas, enfin j'ai connu du harcèlement, mais des fois c'est des blagues, tu vois, que les gens peuvent penser que ça va te faire rire.
Bah souvent c'est des blagues parce que sinon en fait il y a personne qui va dire ah t'es gros comme ça s'il y a personne derrière eux, tu vois, genre tout seul. Il y a rarement des gens qui vont venir te voir, je pense. Mais non, je pense qu'il y en a quand même.
Des trucs du style,
en général c'est quand il y a du monde où il y a leurs potes derrière pour les faire rire, le gros, tu vois,
pour amuser la galerie, voilà. Et ces gens-là, en fait, ils prennent des... Enfin, après, au bout du compte, ils prennent du plaisir à faire ça parce qu'ils voient que ça fait rire les gens, mais toi, ça te fait pas rire, toi. Donc, toi, tu te crées cette carapace, tu essaies de faire face à ça. Et moi, l'humour, ça m'a vraiment pas mal sauvé, tu vois. Et ça m'a pas mal aidé dans ma vie de tous les jours. Donc, non, je pense qu'on est tous plus ou moins des clowns tristes à avoir vécu des choses pas cool. Et puis, c'est aussi pour ça, aujourd'hui, qu'on a beaucoup de choses à raconter sur scène, quoi.
Ouais.
C'est parce qu'on a un vécu, c'est parce qu'on a ça. Et après, je connais pas tout le monde, hein, donc ça, je sais pas si c'est plutôt une majorité ou une minorité, mais moi, je me reconnais vraiment dans ça.
Ah, mais c'est bien.
Toi, peut-être.
Oui, mais par exemple, moi, tu vois, tu me disais que tu faisais rire les gens. Moi, déjà, c'était pas quelqu'un de drôle du tout, mais même, j'ai même pas rigolé. Genre, par exemple, on me jetait de l'eau quand j'étais au collège, tout ça, sur moi, par exemple, non, pas au collège, j'étais genre en famille, où les gens jouaient avec de l'eau, tout ça, ma famille, tout ça. Et moi, on me jetait de l'eau, je fais non, j'ai pas envie de rire, tu vois, ça me saoulait un peu. Et maintenant, j'ai beaucoup changé. Mais par exemple, au collège, je rigolais pas. En fait, j'ai eu, ça on peut pas lui enlever, mon frère qui m'a fait sortir. En fait, j'avais pas beaucoup d'amis au collège. Et mon frère, il m'a fait sortir avec ses potes. Mon frère, il a 2 ans de plus que moi. Okay. Et du coup, j'avais 16, 17 ans. Je parlais avec des gens qui avaient 18, 19, même des fois 25. Et déjà, j'ai dû prendre la maturité d'un coup. J'ai pas eu le choix. Et c'est là que j'ai commencé, du coup, à plus jouer au niveau du clash. Du coup, je clashais beaucoup mon frère pour essayer de faire rire la galerie. Mais en rigolant, évidemment. Et mon frère, il prenait rien de mal. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à devenir drôle. Et du coup, au collège, c'était compliqué. Mais dès que je suis arrivé au lycée et que mon frère m'a fait sortir, au lycée, je rigolais pas. Au lycée, c'était vraiment, déjà, les gars, du coup, à force de traîner avec des gars de 25 ans, tout ça, je me disais, bah, en fait, les gars de mon lycée sont pas matures, quoi. Et moi, j'avais l'habitude de travailler avec des gens grave matures qui avaient travail et tout. Et du coup, leur blague, par exemple, c'est con, mais au lycée, c'est un truc qui fait beaucoup rire. Genre, le gars, il pète en classe. Ah bah, en plus, moi, j'étais dans un lycée où, en tant que soudeur et soudeur, du coup, en bac pro, il y avait que des mecs. Il y avait que des mecs, tu vois. Il y avait une fille.
Et ça, c'était sûrement être un bonhomme, d'ailleurs.
Exactement, ouais, voilà. Exactement.
C'est pas un cliché.
On est dans, on est dans le cliché. Après, je sais pas s'il y a des meufs, c'est fait... Il y en avait une quand même dans le lycée, parce que c'est vraiment un lycée où il y avait que des mecs.
Donc en gros, t'as grandi avec des mecs.
Voilà.
Et je pense que les mecs dans le, enfin,
dis-moi.
Chaudronnerie, ouais. Ça doit être vraiment l'humour, peut-être un peu.
Ouais, mais bah, voilà. Bof. Le bof. On va dire le mot bof.
Bof, clairement.
Et moi, je rigolais pas avec, avec ces gens-là.
Parce que c'était pas mon humour.
Ouais, parce que c'était pas mon humour. Et, alors, il y a l'humour un peu bof, mais voilà, j'essaie de faire quand même des trucs un peu plus travaillés ou quoi.
C'est pas ce qui fait plus rire.
Voilà, c'est pas ce qui m'a plus rire. Bigard, c'est pas mon truc, par exemple.
Ok. Bon, Bigard, c'est. T'aimes ou t'aimes pas.
Voilà, c'est ça.
Un mec, c'est tu kiffes ou tu détestes.
C'est ça. Et genre, c'est comme ça que j'ai commencé à être dans l'humour, à commencer à faire rire les gens. C'est du coup en étant avec des adultes. Mais je sais que avant, contrairement à toi, c'était pas drôle du tout. Et justement, les gens, quand je leur disais, bah, je vais en soirée tout ce soir, mais ils me disent, tu vas en soirée, toi, t'es pas drôle. Genre, qui veut faire des soirées avec toi? Genre, je mettais des trucs sur les réseaux sociaux à l'époque, c'était Snap, Facebook, tout ça. Et ils me disaient, mais pourquoi t'es avec des gens comme ça? Genre, t'es pas drôle, tu vois. Mais c'était des gens qui étaient plus vieux.
Ouais.
Et ça m'a vachement aidé à la maturité.
Pareil, même chose, parce que moi j'ai une sœur qui a 11 ans de plus que moi. Et
11 ans.
11 ans, ouais, elle a 30, 32 du coup. Et j'ai toujours plus ou moins été très très proche d'elle. Et elle, elle a énormément d'amis du coup de son âge. Et j'ai toujours été amené à faire des soirées, peu importe l'âge que j'avais, encore plus aujourd'hui. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait je faisais pas forcément rire les gens de mon âge ou les gens un peu plus jeunes, mais je faisais beaucoup plus rire les gens plus vieux.
Mmh.
Et en fait ça m'a conforté dans l'idée que bah oui, en fait je pouvais sûrement peut-être monter sur scène et faire rire des gens en fait même de qui ont pas mon âge, parce que j'avais peut-être un humour qui plaisait plus aux gens plus vieux que moi que aux gens de mon âge. Et puis ça m'a pas mal aidé ça aussi de grandir et de vivre des choses avec des gens plus vieux. Tu prends vite en maturité en fait,
ouais,
en étant
absolument
entouré de gens beaucoup plus vieux que toi, et tu vois les choses de.
Et puis t'es content, t'es là, je suis avec des grands, tu vois.
Ouais, c'est ça, t'es avec des grands et c'est cool. Et non, ça, je pense que ça forge et ça aide pas mal, ça peut être entouré de gens beaucoup plus vieux que toi.
Ouais, alors là, il va être l'heure, parce que du coup, tu pars à Rennes après.
Il va être l'heure.
Il va être 50, ouais. Mais juste
si
t'as un peu de pub quand même à faire pour toi, pour le Angers Comedy Club, si t'as des trucs.
Ouais, bah si je peux donner mon Insta, maxime.sebron, Sebron, C-E-S-B-R-O-N.
C'est bon, c'est ton nom de famille?
C'est mon nom de famille.
D'accord.
C'est ça, j'ai pas de nom de scène, c'est
okay.
mon prénom. Et là en plus, là récemment, tu vois, on s'est lancé avec Nathan à faire des petites vidéos, je sais pas si t'as vu.
Oui, j'ai vu la première là.
Voilà, donc on aimerait bien un peu se lancer là-dedans, tu vois, enfin essayer de toucher un peu à d'autres trucs. Sinon, le Comedy Club, Angers Comedy Club sur Facebook, sur Insta. Et on reprend les soirées donc quand ça va rouvrir le 9 juin. Donc tous les gens qui seraient intéressés de venir.
De toute façon, j'ai des potes sur Angers, je pense que quand je vais faire l'épisode, je vais le partager tout sur Insta, tout ça.
Okay, ouais.
Et ils vont partager, j'espère que. Bah, après, t'as pas besoin de ramener du monde, c'est déjà complet en général. Mais,
non, j'ai pas besoin de ramener.
Mais si ça peut faire connaître des trucs, c'est toujours cool.
C'est toujours cool de ramener des gens.
Absolument.
Et moi, je suis partisan de ça.
Non, si un jour il y a quelqu'un qui vient te dire, ouais, je t'ai entendu sur le podcast, hésite pas à me le dire. Je serais super content.
Franchement, ce serait super.
Je serais super content.
Non, j'ai déjà signé des autographes, mais c'était plus pour la blague. Donc, on ne me reconnaît pas encore dans la rue, je suis assez tranquille, c'est cool. Mais non, carrément, si quelqu'un parle du podcast, ça serait super.
Tu as déjà fait des interviews ou c'est de la première? Enfin, interview.
Je suis déjà passé à la radio avec un pote.
D'accord.
Voilà, c'était vraiment interview brute. C'est quoi le Comedy Club? C'est des questions. Voilà, c'était très cool. Mm-hmm. Et ambiance podcast, moi j'aime beaucoup. Tu vois, on est vraiment à l'aise. C'est pas.
Mais ouais, en plus, déjà, c'est super gentil de m'accueillir.
Tes questions sont très pertinentes, j'aime beaucoup.
Je me suis dit, en fait, déjà, est-ce que les gens vont m'accueillir chez eux? Parce que, en fait, moi j'ai mon chez moi.
Ouais.
Et
tu fais un petit peu l'émission. J'irai dormir chez moi.
Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Je me suis dit, est-ce que les gens vont vouloir m'accepter chez eux? Surtout qu'en plus, on est en pleine période de pandémie.
Bah, puis nous, on se connaît pas. Quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est que,
voilà.
Dit, bah,
déjà, c'est ça que je me suis dit quand je lui ai envoyé un message à vous quatre. Les quatre ont été me dire, ouais, je suis chaud et tout. Ah ouais, c'est ça. Je me suis dit, tiens, les gars, tu les connais pas.
À notre niveau, les gens qui débutent, moi, je sais que c'est notre cas. On est chaud pour tout et n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, non, parce qu'on n'a pas envie non plus de se prostituer. Mais moi, je suis très, très chaud. Et puis surtout, si tu veux montrer plutôt une image du jeune stand-up, enfin, du stand-up. C'était de pressant, des jeunes humoristes. Moi, je suis très, très partisan de partager mon expérience et pourquoi pas si ça peut donner des vocations à certains, tu vois.
De fou. Non, mais c'est ça qui est cool parce que je pense pas que. Après, je veux pas jeter la pierre aux humoristes connus, mais je pense pas que si j'avais demandé à n'importe qui, genre il m'aurait dit ah oh, bah je suis tout de suite, il m'aurait dit ouais bah je sais pas tout de suite, tu vois. Je dis pas qu'il m'aurait dit non. Je suis pas sûr que si lui il envoie un message à Gad Elmaleh, je suis pas sûr que Gad Elmaleh va dire oui tout de suite. Alors qu'en général, peut-être parce qu'il a pas le temps aussi, hein, pas forcément parce qu'il a pas envie, ouais, parce qu'il a pas le temps.
Il doit répondre à tous les gens qui veulent
faire des trucs. Et... Alors que tu demandes à un mec bah, comme toi, désolé mais t'es pas connu, mais bah genre des gens qui sont pas connus, ça peut le dire. Mais genre t'es sûr qu'ils vont dire oui et ils ont très envie et voilà, ils ont plein de choses à dire. Ils ont plein de choses à dire, je pense.
C'est ça.
Écoute, ça m'a fait plaisir. Je vais arrêter le podcast, bah, mais de rien.